Bonjour, vous êtes sur RDC, Radio Diffusion Charentaise. Vous êtes sur RDC avec Stéphane, RDC 93.4 et 92.5, ou bien sur le site www.radio-du6rdcfm.com. Il est l'heure de l'émission Donnez-nous vos notes. Bienvenue à toutes, bienvenue à tous. Une note, des notes, donnez-nous vos notes. Des notes, des bonnes notes. Donnez-nous des bonnes notes, rien que des bonnes notes. Donnez-nous vos notes. Passeurs et passeuses de rêves, donnez-nous vos notes. Passeuses et passeurs d'émotions, donnez-nous vos notes. Musiciens, musiciennes, magiciens des sons, magiciennes des sons, magiciennes des mots, magiciens des mots, donnez-nous vos notes. Chanteurs ou chanteuses, instrumentistes, en solo comme en groupe, donnez-nous vos notes. Donnez-nous vos notes aujourd'hui sur les ondes de RDC, Radiodiffusion Charentaise, 93.4 et 92.5, sans oublier le site www.radio-du6rdcfm.com. Qui veut bien nous donner ses notes aujourd'hui? Aujourd'hui, c'est Zoé Fourré, c'est elle qui a accepté de nous donner ses notes en ce jeudi 17 avril 2025. Auditrice, auditeur, bonjour. Ravi de vous retrouver sur les ondes de RDC 93.4 et 92.5 pour l'émission Donnez-nous vos notes que j'ai l'honneur et le plaisir d'animer. Bonjour Jean-Marc, merci de ton aide technique au service de la meilleure écoute des auditeurs, mais aussi comme soutien à l'animateur que je suis. Bonjour Zoé.
Bonjour.
Auditrice, auditeur, encore une fois, merci des témoignages que vous envoyez pour dire votre satisfaction à l'écoute de Donnez-nous vos notes. Je ne doute pas que vous apprécierez de recevoir les notes données aujourd'hui par Zoé Fourré, que dis-je, données offertes par Zoé Fourré. Zoé, merci beaucoup. Merci beaucoup d'avoir répondu à l'invitation de RDC.
Je suis super contente d'être là. Merci Stéphane.
Auditrice, auditeur, Zoé Fourré a donc accepté de se prêter au jeu. Elle va nous dévoiler son parcours, son choix d'entrer dans l'univers de la musique, sa formation, ses rencontres avec d'autres, ses envies culturelles, artistiques, musicales. Le tout sera sans doute teinté de l'expression d'un partage musical comme humain. Zoé va nous dire comment elle vit avec la musique, mais aussi comment la musique opère sur elle, ne serait-ce qu'à travers l'influence qu'elle a sur sa personne, voire sur son entourage. Zoé va nous guider vers sa compréhension de la musique, sans doute celle qui permet l'écoute de soi, l'écoute de l'autre, l'écoute des autres. Celle qui permet de faire de la musique avec et pour les autres. Zoé Fourré, vous êtes prête?
Je suis absolument prête.
Alors, Zoé, donnez-nous vos notes. Avec Stéphane sur RDC pour Donnez-nous vos notes. Zoé, une question pour commencer, comme ça, tout go. Qui êtes-vous?
Je m'appelle Zoé et je suis principalement chanteuse au quotidien, mais je fais aussi plein d'autres choses.
Ah ben alors ça y est, vous en avez trop dit ou pas assez?
Pas
Quelles
assez.
Sont ces autres choses?
Alors je suis dans plusieurs domaines différents, principalement la musique et l'art et l'enseignement. Et du coup ça va passer par de la musique classique comme de la musique un peu plus pop, du théâtre, de la danse, du cabaret. Et puis toute une partie un peu plus enseignement, que ce soit en conservatoire ou même en lycée. Donc voilà, deux parties, vraiment une partie artistique et une partie pédagogique.
Donc c'est la rencontre entre l'école, on va dire, l'école au sens école de République, collège, lycée, vous le disiez, et puis l'école de musique, les conservatoires.
Ouais, absolument, dans la partie pédagogique, c'est ça. Et après, pour ma vie artistique, qui est majeure, hein, dans ma vie, qui est plus importante, c'est vraiment des scènes qui vont aller de petites scènes intimistes, parfois, à des beaucoup plus gros plateaux, on va en parler.
En France, ailleurs?
En France principalement, il y a certains projets qui ont la chance de tourner en dehors de nos frontières, mais principalement en France, et j'essaye aussi de rassembler mon activité un peu à Paris, parce que j'y vis, pour des raisons pratiques, mais on est quand même souvent amené à aller ailleurs en France, et bien heureusement.
Seriez-vous parisienne?
Je le suis.
Ah, vous êtes née à Paris?
Je suis née à Paris.
Et vous êtes sortie de Paris pour venir jusqu'à nous.
Et ça,
c'est magnifique.
C'est très important,
et
je suis ravie.
Comment êtes-vous venue à la musique, ou comment la musique est-elle venue à vous? En quelques
Alors,
mots, évidemment.
Bien sûr. Quand j'étais enfant, je chantais tout le temps. Absolument tout le temps. Je crois que petite, j'ai imaginé que chanter, c'était tout aussi naturel que parler.
Est-ce que c'est vrai ou pas?
Je pense que c'est vrai.
Ah.
Ouais, je
alors
le
on
pense.
Est au moins deux à le penser, merci.
Et alors, je sais que dans le quartier dans lequel j'habitais quand j'étais enfant, mes parents habitaient dans le deuxième arrondissement à Paris, vers l'Opéra d'ailleurs. Les commerçants du quartier m'appelaient la petite chanteuse, mais quand j'étais un tout petit bout de
chou. La chanteuse de rue?
Voilà, un peu, mais pourtant...
La Môme Zoé, pour faire un écho à
c'est
la
ça, la Môme Zoé. Et l'Opéra Garnier était juste à côté de chez nous, donc c'est l'Opéra ancien à Paris. Et quand je passais devant, quand j'étais vraiment toute petite, je disais ça c'est ma maison. Mais c'est marrant parce que je savais pas du tout ce qu'il y avait dedans en fait. Hein. C'était une sorte de, je sais
la
pas,
maison
de...
d'opéra, c'est génial.
C'est quand même rigolo. Et je disais plus tard, j'ai envie d'habiter ici. Alors je pense que je trouvais juste ça architecturalement beau, mais il y avait déjà cette première envie de faire partie de cet univers. Et puis voilà, au fur et à mesure, la musique est venue à moi, après dans mon parcours de petite fille, puis de collégienne, etc.
Et on va en reparler plus en détail, mais il fallait bien commencer par un extrait. Est-ce que vous êtes d'accord d'abord pour qu'on emprunte le chemin de vos choix musicaux ? Un chemin pavé par vos choix musicaux. Alors, donc, commencer par quoi ? On va commencer par parler de West Side Story, parce que bah, tout le monde connaît, j'imagine, la comédie musicale écrite par Leonard Bernstein. Et puis on va parler d'une chanson en particulier, qui s'appelle Cool. C'est une chanson extraite de West Side Story, la célèbre comédie musicale dont je parlais il n'y a pas longtemps. Musique de Bernstein, paroles de Sondheim. Cool, c'est la première chanson qu'ils ont écrite ensemble. Et puis Sondheim, il a dit que Bernstein a dû écrire les premières paroles, Boy, 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 Crazy Boy, car lui ne parvenait pas à faire coller la musique et les paroles. Donc c'est Bernstein qui s'y est attelé. Alors l'histoire, qu'est-ce que c'est ? Ben, c'est dans le quartier de Manhattan qu'on appelle Upper West Side. L'intrigue cible la rivalité entre les Jets et les Sharks, deux bandes de jeunes qui se disputent le monopole du territoire. Les Jets sont issus de la classe ouvrière blanche. Ils se considèrent comme les véritables Américains car nés en Amérique, même si pour certains, ces deux parents immigrés qui sont venus d'Irlande, de Suède, de Pologne, d'ailleurs encore, et les Sharks, eux, ils appartiennent à une deuxième génération d'émigrés venus de Porto Rico. Tony, ami du chef des Jets, Riff, rencontre Maria, la sœur de Bernardo, qui lui est le chef des Sharks. Aïe, 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 qu'est-ce qui se passe ? Ben, ouais. Ils tombent pratiquement amoureux au premier regard, quoi.
C'est ça, Tony et Maria se rencontrent, et Riff est le meilleur ami de Tony, tout à fait.
Ouais. Et c'est lors d'une soirée dansante. En gros, il lui a dit, alors en américain, certainement, voulez-vous danser, mamzelle ? Voulez-vous chanter, mamzelle ? Voulez-vous m'aimer, mamzelle ? Et elle a répondu oui, quoi. Mais en très peu de mots, c'est ça le résumé de l'histoire.
Il se parle à peine.
L'humour impossible sur fond de lutte entre deux clans. Moi, ça me fait penser quand même à l'opposition entre les Montaigu et les Capulet.
Oui, il y a vraiment un lien à Roméo et Juliette.
Transposition. Ouais. Hein.
Tout à fait.
Ouais, beaucoup pensent que la musique de Cool, celle que nous allons entendre dans quelques instants, est sans doute parmi les plus complexes entendues à Broadway. La chanson est interprétée par Riff, alors qu'il conseille à ses potes du gang des Jets de rester calme avant d'entrer dans la bataille, dans la lutte contre les Sharks. Riff, c'est un rôle de garçon, joué par un garçon, auditrice, auditeur. Il est au moins une exception que j'ai eu le plaisir et la chance d'en être témoin dans la salle du Palio. Palio, c'est à Boulazac, près de Périgueux, une très belle salle. Là, j'ai assisté il y a un peu plus d'un an, je crois, à ma quatrième représentation de West Side Story. Et pendant qu'elle n'écoute pas, je vais vous le dire, auditrice, auditeur, j'ai été conquis par la qualité de ce qui s'offrait à mes yeux et mes oreilles, comme à celles et ceux des quelques 3000 spectateurs présents. Et puis, il y avait une belle exception, vraiment, c'est que j'ai été subjugué par le talent de celle qui tenait le rôle de Riff. Donc, une fille, une nana, qui tient le rôle d'un garçon. J'ai vu et entendu en elle une artiste hors pair, je le dis directement, autant à l'aise comme chanteuse que comme comédienne ou danseuse, et autres savoir-faire que j'allais découvrir plus tard. Alors je me suis dit que je serais absolument ravi si elle acceptait l'invitation de participation à Donnez-nous vos notes. De fil en aiguille, elle est là aujourd'hui, Zoé. Merci mille fois d'être venue de la capitale jusqu'à nous. C'est de vos notes qu'il va être question ce matin, bien sûr, des notes que vous allez nous donner, nous offrir. Alors, auditrice, auditeur, rendez-vous compte, hein, c'est Zoé Fourré qui est là, celle qui, je le rappelle, a magnifiquement interprété Cool de West Side Story et tout le rôle d'un garçon, sans doute parmi les plus complexes entendus à Broadway. Vous savez quoi, Zoé ? Eh bien, c'est Cool.
Vous voulez rester en vie, hein ? Alors, Cool. Boy, boy, crazy boy, stay loose boy. Is it, bad is, easy, does it? Turn up the juice, boy.
Go and go,
but
I like you, you're just cool, boy.
Just play it cool, boy. Real cool.
Je vais vous dire, Zoé, c'est cool de commencer avec ça, vraiment, vraiment, vraiment. Et on va tout de suite changer de registre, parce qu'on va parler de Francis Poulenc. Je voudrais quand même évidemment saluer toute l'équipe du Labo Opéra, parce que c'est une belle invention que cette chose-là. En quelques mots, donc, c'est la rencontre entre des amateurs et des professionnels autour d'un projet local qui permet un partenariat très étendu. Donc un petit clin d'œil à la chef d'orchestre qui s'appelle
Chloé Mézy.
Réalisatrice, non, metteuse en scène.
Voilà, Gersande Michel, extraordinaire personne, toutes les deux, à la tête de la réalisation chaque année de ces opéras participatifs, collaboratifs.
Et c'est autour d'avril, hein, toujours.
C'est ça. La période de répétition, c'est le mois de mars. La période de fabrication des décors et des costumes, c'est tout en amont pendant l'année.
Okay.
Et puis ensuite, le moment de scène, c'est début avril.
Alors, Francis Poulenc, il a écrit beaucoup de choses, musicien célèbre. Et il a notamment écrit les litanies à la Vierge Noire. Alors bon, c'est bien, on change complètement d'époque, de style, de genre. Parlez-nous de la Vierge Noire.
Alors, Francis Poulenc, c'est un compositeur français qui a écrit de la musique pendant la période qu'on va appeler moderne dans le jargon musical, donc c'est au XXe siècle. Et avec un petit passage entre le XIXe et le XXe siècle. Et en fait, Francis Poulenc était, de ce que j'ai lu à l'époque quand j'ai chanté ça, était pas spécifiquement croyant, bien qu'issu d'un milieu, je crois, religieux. Et quand il est arrivé à Rocamadour, il a vu la petite Vierge Noire, une petite statue à Rocamadour, et là, il aurait eu la révélation divine, la révélation sacrée, et il se serait mis soudainement à croire en Dieu, à croire en la Vierge, et c'est là qu'il a écrit cette pièce extraordinaire pour orchestre et chœur qui s'appelle « Litanie à la Vierge Noire », en hommage à ce moment et à cette petite Vierge Noire à Rocamadour.
Quand il est arrivé à Rocamadour, il a prononcé quelques mots, il a raconté son pèlerinage, tiens, je vais dire. Il a dit que, précédé d'une cour, une bien modeste chapelle construite à moitié dans le roc abrite une statue miraculeuse de la Vierge sculptée, parce que ça a été une apparition de la Vierge là-bas. Et le soir même, il a commencé donc cette composition, cette écriture. Et l'œuvre a été écrite, paraît-il, en une semaine. C'est quand même rapide, non ?
Ouais, c'est très rapide, surtout par rapport à la magnificence de cette pièce, sa subtilité, sa finesse. C'est une œuvre très, très intéressante.
Vite fait, bien fait, on pourrait dire. Mais c'est possible, ça, vite fait, bien fait, dans le domaine de l'art ?
Et en réalité, quand on regarde de grandes symphonies de Beethoven ou de grandes œuvres de Mozart, il y a beaucoup de pièces qui ont été écrites en très peu de temps, parfois en une nuit même. Ça, c'est des mythes qu'on a sur certains grands compositeurs. Alors, il y a plusieurs raisons. Ça peut être parce que les commandes étaient très nombreuses pour ces compositeurs. On pense à Mozart qui est mort d'épuisement, en fait, hein, tellement il a dû composer un moment très restreint dans sa vie. Et puis,
et même, il paraît, je t'interromps deux secondes, que des fois, les musiciens, les instrumentistes découvraient la partition au moment de la répétition, parce que ça a été c'était fini quelques heures avant. Quoi.
Ah bah ça. Et puis finalement, dans la composition, ça a été le cas aussi. Il y a des œuvres qui ont été composées un peu d'une traite, comme ça, qui sont restées des très grands classiques du répertoire, et des œuvres très reconnues pour leur qualité d'écriture, bien qu'écrites très rapidement.
Alors cette œuvre de Poulenc, elle est à l'origine destinée à un chœur de femmes ou d'enfants, à trois voix, avec accompagnement d'orgue. Et puis plus tard, Poulenc lui-même réalisera une orchestration pour cordes et timbales. Elles ont été créées à Londres, c'est Litanie de la Vierge Noire, sous la direction de Nadia Boulanger, célébrissime artiste et pédagogue française.
Et compositrice.
Puis en France, la première audition a été donnée à Paris, toujours sous la baguette de Nadia Boulanger. Première œuvre de musique religieuse de Poulenc, cet absolu petit chef-d'œuvre, je trouve en tout cas, fait montre d'une expression directe, presque naïve, de la détresse, du désarroi, mais aussi d'une affectivité assez assurée. Qualification pour cette composition, je vais dire émouvante, mais une réelle pureté, presque une innocence, et puis une dévotion paysanne, comme l'a dit Poulenc lui-même. Alors on pourrait sûrement écouter, si vous êtes d'accord Zoé,
avec grand
quelques
plaisir.
Notes des litanies de la Vierge Noire de Francis Poulenc. Parlez-nous de cette œuvre, parce que Zoé, en tant qu'interprète, vous l'avez chantée, vous étiez dans le chœur, vous avez participé.
Eh bien là, la version que vous venez de faire écouter, je crois que je chante dedans.
Non, je crois pas, je suis sûre.
Alors, c'était très émouvant pour moi, puisque quand j'étais enfant et adolescente, donc de la classe de 6e à la classe de 2e inclus, j'étais à la maîtrise de Radio France, qui est le chœur d'enfants affilié à la Radio Française. Et c'était une formation extrêmement intense, donc j'étais au collège tous les matins, de 8h à 13h, et l'après-midi, j'allais faire de la musique. Et ça a duré pendant toute ma scolarité à partir du collège. Donc j'ai connu un cursus qu'on appelle les horaires aménagés, les CHAM, les classes à horaires aménagés musique. Il y en a plusieurs dans Paris, et donc cette formation-là, cette maîtrise d'enfants, de ce cœur d'enfants, permettait d'avoir accès à ce genre de cursus. Et donc l'après-midi, j'avais des cours de chœur, de piano, de chant, de solfège, d'harmonie, de théâtre un peu, de technique Alexander, une technique d'alignement corporel. Et
alignement corporel, ouais. Vous êtes en train de me dire à travers ça, de nous dire que le chant, c'est aussi le travail du corps.
Énormément, il y a un travail postural, de posture qui est très important dans le chant, pour que la colonne d'air, donc ce qui nous permet de respirer et de donner assez d'air pour que les cordes vibrent, il faut qu'il y ait un alignement.
Vraiment, c'est un instrument avant, finalement.
Tout à fait, ouais, parce qu'en fait c'est de l'air qui sort des poumons qui va venir faire vibrer les cordes vocales, et puis après le son va passer par notre bouche, la langue, les résonateurs pour former un son qu'on va choisir plus ou moins de délivrer.
Donc c'est une ressemblance entre le chanteur ou la chanteuse et puis des instrumentistes avant, t'as que des flûtistes ou des
par exemple. Et ces litanies à la Vierge Noire, on les a chantées une année à l'auditorium de Radio France. Et c'était le premier concert de la saison de Radio France. Donc on avait une sensation, nous, les enfants de la maîtrise, d'avoir une certaine, je dirais pas pression, mais un peu, puisque c'était le premier concert de la saison. Et c'était l'Orchestre National de France qui jouait, donc l'orchestre de la radio, et Mico Franck, qui était leur chef à l'époque, qui dirigeait. Et je me souviens qu'on avait travaillé cette pièce en fait assez rapidement, parce que c'était le concert de l'année, le premier, c'était au mois d'octobre ou de septembre, je ne sais plus. Et on a vu très peu de temps, et la pièce était extrêmement difficile. Donc on était stressés, vraiment stressés. Et il fallait chanter d'une manière très 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 fine et subtile, faire des sons très très sensibles.
Je trouve des similitudes avec le chant grégorien dans
certains. Tout à fait, parce que le chant grégorien, c'était une musique sacrée. Et ça, c'est une musique, je pense, qui se veut incroyablement sacrée par rapport à cette histoire de révélation dont on a parlé. Et ça fait que ce moment avec cet orchestre, c'était très émouvant, parce que c'est une pièce tellement intime. Enfin, moi, je trouve qu'on sent une intimité dans l'écriture. Et je me souviens que le chef en fait, dirigeait à peine, il faisait quelques gestes, mais la musique jaillissait toute seule. Nous, on était très très préparés, les enfants de la maîtrise.
Qu'est-ce qui vous préparait ?
C'était Sophie Jeanne, hein, qui était la chef de chœur de la maîtrise, mais pas qu'elle, absolument pas qu'elle. Elle avait une adjointe qui nous faisait beaucoup travailler, qui s'appelait Marie-Noël Maerten. Mmh. Et on avait toute une série de professeurs de chant et de solfège qui participaient grandement.
Une équipe pour faire progresser la maîtrise.
Bien sûr, on a eu énormément de professeurs. Et je me souviens très bien, à la fin des litanies à la Vierge Noire, à la fin de ce quart d'heure de musique, que le chef a pleuré. Il pleurait en dirigeant. Sur la vidéo qui est sur YouTube, encore aujourd'hui, on le voit, il pleure. Et les critiques musicales ont vraiment salué cette version des litanies à la Vierge Noire, et on était extrêmement contents, en fait. C'était très émouvant comme moment. J'en ai un très bon souvenir.
C'est important d'avoir des bons souvenirs. Hein.
Ah oui, ça.
Et notamment dans quelque chose qui est devenu votre profession, finalement. Ça n'était pas encore le cas à l'époque, mais...
Ah, oui, oui.
C'était le chemin pour aller vers la profession d'artiste et de chanteuse.
Et puis finalement, dans ces maîtrises-là, où on a un très très lourd cursus musical, il y a beaucoup d'élèves qui savaient déjà qu'ils voulaient faire de la musique. Alors, ça ne veut pas dire que tout le monde est devenu musicien ou musicienne, mais dans mon entourage, beaucoup de mes amis ont maintenant une profession musicale ou artistique plus globale, émanant de ces formations-là.
Merci Zoé de toutes ces indications. Je crois que c'est important qu'on se rende compte du chemin parcouru et qui part donc du collège et des classes CHAM et de la maîtrise dont vous venez de nous donner quelques vécus.
Oui.
Vécu partagé, donc, parce que c'est avec d'autres, forcément.
Oui, alors on était environ 80, et dans chaque promotion, donc moi dans ma classe, on était une douzaine à être en classe de solfège et de chant. Et ce qui est intéressant, c'est que ce sont des formations qui soudent énormément les élèves, parce que parfois on partait en tournée, faire des concerts en dehors de la ville parisienne, donc on était loin de nos parents. Et ça a créé des souvenirs un peu de colonie de vacances musicales qui étaient très forts. Et puis les concerts en eux-mêmes étaient parfois des moments assez extraordinaires. Je me souviens qu'on a chanté pour la coupe d'ouverture d'Europe de football quand j'avais peut-être 14 ans au Stade de France. Et il y a quelques souvenirs comme ça de salles de concerts dans lesquelles on ne rechantera peut-être jamais. Et puis des souvenirs de rencontres avec de très grands musiciens, musiciennes, de grands ou de grandes chefs hein, d'orchestre ou de chœur. Et puis des œuvres, des moments un peu de grâce. On va peut-être parler de certains autres moments de cette formation-là, mais il y a eu des choses très intenses musicalement et ça a vraiment fait partie de ma première construction musicale qui me porte encore beaucoup aujourd'hui.
Alors vous parlez de rencontres, vous parlez d'échanges. François Bernard Mache, vous l'avez rencontré ?
Pas du tout, mais je sais qu'il est encore en vie, donc je le pourrais tout à fait. Mais par contre, la personne avec qui j'ai travaillé la pièce qu'on va écouter là avait son numéro et on a failli l'appeler pour lui demander des informations. Donc j'aurais pu l'avoir au téléphone à ce moment-là.
Jamais trop tard.
Tout à fait, je sais
d'ailleurs,
que je
vous lui demanderez la prochaine fois de revenir ici et vous l'accompagnerez. On lui lance une invitation par vous.
Voilà,
merci.
Monsieur Mache.
Qu'est-ce qu'on va entendre alors ?
On va entendre Rana. Alors, Rana, c'est une pièce de musique contemporaine. Donc la musique contemporaine, c'est la musique qui est écrite aujourd'hui et on va plutôt parler dans ces cas-là de la musique extrait du répertoire dit classique, entre guillemets, savant. Par exemple, la musique pop ou la musique ou le jazz qu'on écrit aujourd'hui, on va pas forcément parler de musique contemporaine. Quand on parle de musique contemporaine, moi je trouve en tout cas qu'on parle de la musique issue de codes un peu savants et la musique contemporaine, il peut y avoir une dimension un peu expérimentale aujourd'hui. Et cette pièce-là, c'est une pièce pour voix seule qui a été écrite à partir d'un texte qu'on a trouvé sur les bandages d'une momie étrusque. Donc c'est un texte dont on ne connaît pas la signification. On sait qu'a priori, ça parle de Dieu.
Ouais, Rana, c'est le nom par lequel les étrusques se désignaient eux-mêmes. Hein.
Ouais.
Et c'est aussi important de savoir ça par rapport au titre de la pièce et de ce qu'on va entendre. Pardon, je vous ai interrompu. Mais vous parlez étrusque, vous ?
Pas du tout. Donc quand j'ai découvert ce texte, je ne savais pas comment le prononcer, et puis je ne savais pas du tout ce qu'il signifiait, mais au final, ce qui est intéressant, c'est la manière dont il a été mis en musique, mis en voix par François Bernard Mache, et c'est une pièce que j'ai chantée en Autriche l'été dernier, vraiment entourée d'un florilège de compositeurs et de compositrices et de musiciens et musiciennes qui étaient assez jeunes, en fait. C'était une académie de chant et de composition. Et donc moi, je chantais ça à la fin de cette académie. C'est un moment où des gens se retrouvent pour travailler, étudier ensemble les académies. Et c'est des moments très riches d'apprentissage et de musique collective. Et donc là, c'était à Salzbourg, en Autriche.
Ouais, sur un thème finalement très ancien, avec un texte très ancien, une musique d'aujourd'hui, une musique contemporaine, une nouvelle forme d'écriture, d'écoute. Bref, une ouverture à un nouvel univers pour dépasser, je crois, le « j'aime pas ». Il faut écouter, il faut entrer dans l'écoute et dans l'audition. Et comment est-ce qu'on peut engager tout un chacun à suivre cette démarche, à sortir de ce qu'on connaît, c'est-à-dire dans lequel on est plus ou moins à l'aise pour aller ailleurs? Est-ce que c'est le rôle de l'école? Est-ce que c'est le rôle de l'école de musique? Le rôle des parents? Il y a différentes pistes possibles?
C'est le rôle qu'on essaye de tous partager, je pense. C'est-à-dire qu'à mon avis, les artistes ont tout intérêt à apprendre à s'adresser au public d'une manière simple. Pour ça, on a des outils comme la médiation qui nous permettent de se munir d'outils comme par exemple animer un atelier qui va permettre à pas mal de gens d'un coup d'accéder à la pratique musicale d'une manière simple, des gens qui ne sont pas forcément musiciens. Donc j'ai l'impression qu'en tant que...
Donc ça veut dire que la musique peut être pour tout le monde, c'est ça que vous dites?
Évidemment, mais
c'est
nous en tant que musiciens, je pense qu'on doit apprendre à créer ce genre de moment avec des amateurs et avec des gens qui n'ont pas forcément un contact régulier au répertoire musical, parce qu'en fait, si on apprend à faire ça, nous, une fois qu'on est sur scène et qu'on transmet une musique qu'on a pour le coup apprise à faire pendant des années de notre vie, on a en tête ce lien au public amateur. Et puis, j'ai l'impression qu'il ne faut pas du tout qu'on s'arme d'une forme de mépris des gens qui ne savent pas faire de la musique, entre guillemets, de manière professionnelle. En fait, c'est le contraire. Moi, j'ai l'impression qu'il faut qu'on apprenne à partager collectivement ça, et pas seulement en proposant des concerts, mais en proposant des formes de musique commune. Exactement. Et là, en l'occurrence, une pièce comme Rana, moi, j'ai envie de dire, quand on l'écoute, il faut imaginer que c'est une forme de rituel, par exemple. C'est un rituel vocal.
Ouais, que dit la critique, certaines critiques, en tout cas, de cette œuvre et du compositeur? Certains parlent de François Bernard Mache comme un lumineux penseur de la musique nouvelle. C'est beau ça, non?
Ouais.
Et il y a un autre critique qui commente l'œuvre et qui dit: quand la musique ne s'adresse plus seulement à nos sentiments ou à nos émotions, mais à une lointaine mémoire retrouvée. Ça veut dire quelque part, et ça confirme ce que vous venez de dire, je crois, Zoé, c'est que l'art est un bien commun, un bien à partager, et qui s'inscrit dans une mémoire collective retrouvée pour l'instant.
Tout à fait.
Alors, c'est vous qui chantez ce qu'on va entendre ?
C'est moi qui chante ça. Alors, à Salzbourg, il y a un an à peu près.
C'est maintenant.
«
Alors, auditrice, auditeur, je vous fais une confidence, parce que vous ne pouvez pas le voir, mais moi, si, puisque je suis en face d'elle. Je viens de voir Zoé qui rechantait dans sa tête ce qu'elle entendait, c'est ça, hein, Zoé ?
Oui, je l'ai appris par cœur, cette pièce, pour la chanter au mieux. Alors, ce qui est rigolo quand on travaille une pièce comme ça, c'est que ce sont des pièces pas faciles du tout, parce que le rapport aux notes, c'est des pièces qui sont difficiles à monter, parce que c'est pas facile à entendre. Et comme elles sont complexes, moi je les réutilise souvent. C'est une pièce que je chante souvent en audition, par exemple quand je dois me présenter à un chœur et qu'il faut chanter de la musique contemporaine, je la réexploite entre guillemets, parce que j'ai mis un sacré temps à l'apprendre, et puis je l'ai apprise avec
c'est une forme de rentabilité, pardon de le dire comme
mais
ça.
Mais un petit peu. Puis en plus je l'ai apprise avec une très très bonne professionnelle spécialiste du répertoire contemporain, ce qui fait que j'ai pris plein de notes sur cette partition.
Alors ça veut dire que la professionnelle que vous êtes, ouais, s'entoure de compétences pour aller encore plus loin, c'est ça?
Ah mais énormément. En fait, j'ai l'impression que ce sont des métiers où on apprend pendant toute notre vie, on prend des cours pendant toute notre vie. C'est important de le dire.
Donc
c'est
auprès des profs de chant, auprès
ouais,
de...
C'est comme un sportif qui aurait encore un coach pendant toute sa vie, mais pendant toute sa carrière sportive, et en fait, c'est le cas. Moi, je vois des professeurs de chant, j'en vois deux principalement. Une professeure de chant lyrique qui a vraiment formé, qui a construit ma voix lyrique avec moi, que je vois encore beaucoup, que j'aime beaucoup.
Elle
s'appelle Florence Guignolet et elle dirige le département de chant lyrique du Conservatoire à Rennes. Oui. Régional de Paris, ouais, dont je
qu'elle est invitée quand elle veut ici.
Ah mais alors elle serait ravie. Et parallèlement, depuis un peu moins de temps, je vois une professeure qui me transmet plutôt une technique vocale plus pop, plus de comédie musicale, une voix qu'on peut associer à du répertoire plus moderne, plus grand public. Donc voilà, j'ai deux approches musicales.
Vous êtes en train de me dire que vous n'avez pas uniquement l'interprète dans le champ du lyrique, là, c'est ça?
C'est ça.
Vous allez voir plusieurs univers.
Absolument.
Ouais, alors je vais me permettre de vous tutoyer. Et je vais vous lancer une formule qui c'est direct. Hein. Mm-hmm. Zoé, je ne veux pas de ton amour.
Oh
vous,
là là.
À vous.
Je ne veux pas de ton amour, va voir ailleurs.
Voilà, et dites-nous ce que c'est.
Alors cette chanson, c'est une chanson que je trouve sublime de Barbara Weldens, qui est une artiste qui malheureusement est décédée bien trop tôt, électrocutée sur scène en chantant durant l'un de ses concerts, c'est terrible, qui a écrit cette chanson absolument extraordinaire sur... la peur qu'on a quand quelqu'un nous aime, le premier réflexe c'est de le ou de la rejeter pour se protéger de son amour. Et en fait, je ne veux pas de ton amour. Moi, j'ai écrit un spectacle il y a environ 2 ans qui est un seul en scène musical, théâtral et dansé autour d'une histoire très intime que j'ai vécue quand j'étais adolescente.
Seul en scène, je crois qu'il y a une pianiste quand même, non?
Alors, dans la version enregistrée, il y a une pianiste,
vu, oui.
Et désormais, il n'y en a plus parce que je veux l'adapter à des théâtres où il n'y a pas de piano. Alors, quand il y a un piano, elle revient. Mais quand il n'y a pas de piano, je peux le jouer maintenant sans pianiste. Et
avis au pianiste, Zoé Fourré est en train de diminuer.
C'est terrible, je m'en veux tellement. Mais c'est une vraie contrainte, le piano. Il y a plein d'endroits où il n'y a pas de piano. Finalement, je ne veux pas de ton amour. C'est une chanson que j'ai réécrite. Donc, j'ai repris la mélodie et la trame et quelques éléments des paroles. Et puis, je l'ai réécrite pour en faire une chanson qui s'accordait à ce spectacle et à une histoire que j'ai vécue. C'est une chanson, là, telle que vous allez l'entendre, qui parle de mon rapport à ma maman. Et aux relations mère-fille qui sont parfois empreintes à la fois d'énormément d'affection et de tendresse, mais aussi de conflits parfois internes à la relation. Et donc ça, c'est une chanson qui parle du regard qu'elle avait sur moi au moment où j'étais adolescente.
Quelqu'un a dit sur l'interprétation de Barbara Weldens, c'est-à-dire la chanson d'origine, mm-hmm, que c'était frissonnant d'honnêteté et de poésie,
ouais,
et que des rapprochements étaient évidents entre Barbara Weldens et Barbara tout court.
Tout à fait. Tout à fait.
Il y a peut-être l'histoire, la façon de chanter.
Et puis un rapport très très direct au texte, parce que finalement c'est de la musique qui se chante mais qui pourrait se parler aussi. C'est une musique dont le rythme du chant se rapproche du rythme de la langue parlée. Et je trouve que du coup il y a un accès très très facile au texte, un peu comme Brel. Enfin,
c'est de la chanson réaliste.
Ah ouais, moi je trouve que c'est de la chanson réaliste et intime à la fois, avec un langage accessible, avec une compréhension vraiment pas facile, parce que c'est quand même poétique, mais si c'est du texte facile à comprendre. Ça, c'est clair.
On écoute ? C'est vous qui chantez ?
C'est moi qui chante.
Allez. Est-ce que ça va nous faire frissonner ?
Je l'espère.
D'honnêteté et de poésie ? Peut-être. Ça devrait pas tarder. Zoé tarde à nous faire frissonner.
C'est rigolo, c'est une chanson que j'ai chantée il y a exactement un an. La captation, là, elle date d'il y a exactement un an.
On espère qu'on va l'entendre.
On espère aussi.
Eh bien, on y reviendra tout à l'heure.
Vous chantez un petit bout, si vous voulez.
Ah, alors si on peut l'avoir en direct, c'est encore mieux.
Alors, un petit bout.
On a un petit problème technique, mais grâce au savoir et au savoir-faire de Zoé,
Elle avait chanté le début. Je sais même pas quelle version chante entre les deux, mais...
Ça fait rien.
Je ne veux pas de ton amour, va voir ailleurs. Je ne veux pas me rapprocher pour mieux entendre battre ton cœur. Recrache le miel sur ta voix. Enlève ces étoiles dans tes yeux. Remballe tes fleurs. Écoute-moi, il n'y a pas d'amour heureux. Je ne veux pas de ton amour, va voir ailleurs. Je ne veux pas être le geôlier de ta belle prison dorée. Garde les clés ou bien jette-les, mais retiens-toi de les confier. Tu pourrais bien regretter l'usage qu'il en serait fait.
Je laisse quelques secondes de silence avant d'avoir repris la parole parce que c'est beau, voilà. Je suis...
C'est une très belle chanson.
Ouais, et puis il n'y a pas que la chanson, hein. Je tiens à le redire encore une fois. L'interprétation est quelque chose de très travaillé. On entend votre attention à tous les sons.
Ouais, les mots, surtout, c'est les mots.
Ouais,
c'est
des... Moi, je vais plus loin que ça, pardon. Ouais. Hein, je peux me tromper. Les consonnes, les voyelles, c'est pas n'importe comment.
Ça s'apprend.
C'est... Oui, ça s'apprend, mais ça se conscientise aussi pour pouvoir presque, j'ai envie de dire, l'automatiser. Quoi.
Ouais.
À chaque fois, vous reprenez le rôle de celle qui interprète tel que vous l'avez conçu. C'est-à-dire que c'est pas de la réinvention à chaque fois, mais c'est reprendre les... puisqu'on est en Charente, reprendre les charentaises de celui ou celle qui a calé les choses.
Oui, ancrer des réflexes d'interprétation. Ah, ça c'est clair. Ouais.
Donc ça parle de vous quelque part, hein, quand même si c'est une relation.
Oui, bah là c'était vraiment une chanson que je voulais redonner dans ce spectacle, parce que je trouvais que le texte était extrêmement adapté, le texte d'origine, et j'ai réécrit peut-être deux tiers du texte de la chanson pour l'adapter à ce spectacle. C'est un spectacle qui parle des troubles du comportement alimentaire à l'adolescence, donc c'est un spectacle qui retrace le parcours, l'histoire d'une jeune fille qui vit de l'anorexie mentale quand elle est adolescente. Bon, c'est mon parcours à moi, justement.
Donc,
quand elle était
jeune fille, elle s'appelle Zoé.
Elle s'appelle Zoé, j'ai gardé mon nom. Et puis elle traverse en musique et en théâtre un processus de guérison relatif suite à l'anorexie.
Alors donc vous parlez de vous, finalement.
Oui.
Vous l'annoncez ou faut que les gens le devinent?
Non, c'est... Enfin, en fait... Je pense que c'est tellement évident que ça parle de moi que je l'annonce pas, mais comme c'est mon prénom et que je dis mon prénom pendant le spectacle, on le comprend. Et puis après, c'est écrit sur le programme de salle. Enfin, c'est évident que ça parle de moi. Et en fait, c'est l'un des exercices les plus difficiles, je trouve, qu'on puisse faire. C'est des spectacles où on parle de son intimité, parce qu'en fait, ça coûte énormément. En fait, aller sur scène et parler de soi, même si on a la barrière de la musique qui nous permet parfois un tout petit peu de nous extraire du... Mais par exemple, le théâtre pour parler de soi, c'est tellement difficile de se confier à un public comme ça.
Parler de soi, c'est parler de ses forces et de ses faiblesses, forcément.
Et surtout de ses faiblesses. Dans ce spectacle-là, c'est un spectacle sur ces moments un peu sombres psychologiquement qu'on peut vivre quand on est adolescent et adolescente. Et c'est vraiment difficile de confier ça à un public comme ça sur un plateau. C'est 1h15 d'un tunnel où on est seul sur scène. Mmh. Et on peut pas sortir, il y a aucun partenaire de scène qui peut nous aider. Si on n'est pas en forme ce jour-là, on peut s'en prendre qu'à nous-mêmes. Enfin, c'est un exercice de solitude
peut-être
qui est très particulier.
Peut-être que le public peut devenir un partenaire qui aide à ce moment-là.
Oui, surtout quand le public rit, il y a plusieurs moments d'humour dans le spectacle.
Oui.
Ça peut aider. Mais alors s'il y a un soir où ça prend pas parce que personne n'ose rigoler et ça lance pas les rires et personne du coup n'ose rigoler pendant tout le spectacle, là on se sent très très seul quand même. C'est très difficile.
Et donc faire état de ses faiblesses, il faut, je crois, tu vois, à votre place bien sûr, mais en faire des forces, c'est-à-dire les transformer en force, en atout pour continuer le spectacle malgré tout.
Ouais, et puis finalement, ce qui est précieux, c'est quand on sort de scène et qu'on reçoit les témoignages des spectateurs et spectatrices qui sont venus. Et cette chanson-là, c'est la chanson qui en règle générale revenait le plus dans les retours, et je pense que beaucoup de personnes se projette dans cette difficulté du rapport aux parents, qui est à la fois fait d'amour et aussi de contradictions. Et à chaque fois, des femmes notamment venaient me voir pour me dire « Oh, mais la chanson sur ta mère, j'aurais vraiment pu dire la même chose sur la mienne. » Et c'était rigolo.
S'identifier à ce qu'on voit et ce qu'on entend.
Ah oui. Et c'était vraiment celle qui revenait le plus. Et je me disais « Mais c'est fou comme c'est quelque chose de collectif, c'est quelque chose d'universel, le rapport aux parents. » Et enfin, le plus possible universel, en tout cas, je le souhaite à tout le monde d'avoir un bon rapport avec ses parents. Et c'était vraiment flagrant. C'est la première chanson dont tout le monde me parlait à la fin.
D'après vous, Zoé, parler de soi, poser des mots, vous me dites juste oui, non. Ça remonte le moral?
Peut-être. Ah, je peux pas dire oui, non. Parce
Est-ce que ça redonne la pêche?
Ouais.
Est-ce que ça soigne?
Oui.
Est-ce que pour être artiste, il faut souffrir? Je dis ça parce que je fais souvent référence à une formule de Jacques Brel. Jacques Brel disait « L'artiste, c'est quelqu'un qui a mal à l'autre ».
Ah, c'est intéressant comme formulation. Je n'ai pas l'impression qu'il faille souffrir, notamment déjà parce qu'être artiste, est-ce que c'est être interprète ou est-ce que c'est être créateur, créatrice? Pour moi, c'est les deux. Être artiste, ça peut être servir l'œuvre de quelqu'un ou créer. Et pour moi, je ne pense pas qu'il faille souffrir. C'est important de vivre, déjà. Et puis, je pense que c'est important de rentrer pleinement en contact avec ce qu'on vit. Donc, de vivre pleinement les choses et de pouvoir ensuite, si on le souhaite, les verbaliser et les rendre musique, par exemple. Et au final, ce qui est difficile quand on crée, c'est quand on se sent un peu loin de soi-même, quand on n'arrive pas vraiment à ressentir ce qu'on vit, quand on ne se sent pas connecté à soi-même. Là, c'est difficile d'écrire parce que je trouve que du coup, ça se base sur un ressenti qui est un peu mitigé, un peu partiel. Et là, écrire, ça devient un peu loin de soi.
Est-ce que vous êtes allé chanter en Islande ?
Jamais.
Ça va peut-être venir.
J'adorerais, les paysages ont l'air sublimes.
Eh oui, ouais. Alors, il y a une chanteuse, interprète, auteure, compositrice que vous aimez particulièrement, voilà, je crois.
Björk.
Ah, et quelle chanson ?
Play Dead, c'est une chanson que je chante aussi dans ce spectacle, mais pour l'anecdote, quand j'étais petite, mon premier rapport à la musique, ça a été deux artistes, ça a été Björk et The Cure, chanteur Robert Smith, et mes parents avaient
des... On reparlera peut-être plus tard.
Ah, mais oui, et mes parents avaient des DVD et de clips, et je regardais intégralement les 15 clips du DVD, et je passais mon temps devant la télé à regarder ces clips, et c'est quand même des univers musicaux très particuliers. The Cure, c'est très, très glauque quand même, c'est... Ouais. Et j'adorais ça. Et voilà, cette chanson-là en particulier de Björk me touchait beaucoup.
Alors Play Dead, hein, c'est rien que le titre déjà.
Ouais, c'est déjà un petit peu morose.
On
c'est
écoute
clair. On l'écoute.
Allez, c'est maintenant. On peut dire aussi de cette belle mélodie, tiens, je vais dire, hein, puis il y a toute cette présentation instrumentale.
Oui, avec cet orchestre, avec ses cordes. Ouais,
c'est une chanson qui est extraite d'une bande originale d'un drame policier.
Oui, absolument.
De Young Americans. Et puis Björk a qualifié l'écriture des paroles, c'est elle qui les a écrites, comme difficile parce que le personnage du film souffre. Et elle, à ce moment-là, elle était très heureuse dans sa vie. Donc, elle avait des difficultés à transposer. Et pour l'aider, elle a demandé au réalisateur du film, Danny Cannon, de lui écrire une page entière de phrases qui décrivaient les émotions des personnages du film et donc leur tristesse. Mm-hmm. Au final, elle n'a utilisé qu'une seule ligne de toute la page. Mais bon, ce que femme veut, hein. Et encore, elle a changé quelques mots. Certes, elle n'a pratiquement rien retenu du trail de l'essai de Cannon, mais... Peut-être consciemment ou non que cela l'a aidé et l'a inspiré. Être inspiré, et Zoé écrire, que ce soit en musique, de la mélodie, des paroles, c'est l'inspiration qui guide. Mais qu'est-ce que c'est l'inspiration pour vous ?
L'inspiration, c'est multiple. J'ai l'impression que c'est un mélange subtil entre tout ce qui nous a influencé et tout ce qui nous a plu et marqué depuis qu'on est jeune. Notamment, moi, par exemple, pour la musique, tout ce qui m'a influencé musicalement. Et puis un mélange avec ce qu'on a envie de dire de nous, puis ce qu'on a envie de dire du monde. Et encore un mélange avec ce qu'on a envie de faire entendre aux autres. Et que l'inspiration, c'est une sorte de mélange entre ces trois grands ingrédients, ces trois grandes familles d'ingrédients. Et au final, moi, quand j'écris une chanson ou quand j'écris un spectacle, je me pose beaucoup la question de ce que j'espère va ressentir la personne qui reçoit ce spectacle ou cette chanson. Mais comme ça provient quand même de moi et d'un récit personnel et de références musicales, j'ai parfaitement conscience que je vais avoir finalement une perception très biaisée de ce que vont vivre les personnes qui m'écoutent ou qui me regardent. Donc c'est un mélange entre ce que j'ai envie de transmettre et ce que je transmets malgré moi. Je ne sais pas comment expliquer ça autrement.
Est-ce que, si je vous pose la question un peu différemment, par rapport à ce qu'on vient d'entendre, vous l'avez retenu pour illustrer votre parcours, mais est-ce qu'on peut dire que Björk, elle a contribué à former les notes que vous nous donnez aujourd'hui ou plus largement ?
Énormément, parce que Björk, moi ce qui m'a beaucoup touchée, je pense, quand j'étais enfant, et c'est ce qui me touche beaucoup aujourd'hui, c'est sa voix. Elle a une sorte de voix qui semble à la fois très naturelle, on a presque l'impression qu'elle ne l'a pas travaillée, et en même temps, elle a une voix incroyablement précise et très 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 particulière, caractérisée. Et je l'ai vue plusieurs fois en concert. Et il y a des moments où elle chante avec une telle force vocale qu'on a l'impression qu'elle passe dessus le micro. Enfin, que même sans micro, elle passerait par-dessus la
et
bande électronique.
Ça veut dire que c'est très travaillé, en fait.
Mais je pense. Et c'est rigolo parce que Björk, c'est quelqu'un qui n'a pas un très très bon accent anglais quand elle chante. Et parfois, elle chante en anglais et on a l'impression qu'elle chante une autre langue. Et du coup, moi, j'ai très peu écouté le texte quand j'étais enfant. J'ai écouté sa voix énormément.
Ouais. Et je crois que ça crée des images, même si on ne comprend pas l'anglais, même si on ne parle pas l'anglais ou l'islandais ou j'en sais rien, quelle que soit la langue, parce que certains disent que même sans les images qui vont avec cette chanson, dans le clip par exemple ou dans le film, je crois qu'il y a des images tout de suite, des images mentales qui peuvent arriver.
Ouais.
Se créer des images mentales à partir de sons, à partir de bruits, à partir de mélodies, à partir de rythmes, à partir d'histoires, ça existe, ça marche ou ça marche
pas ? Bien sûr, moi par exemple, cette chanson, j'avais l'impression qu'elle criait Björk. Là, c'est ce tout début d'ailleurs où il n'y a pas encore de paroles, et le clip, ça se voit aussi, on a l'impression qu'elle crie de douleur, et je trouve que la voix, c'est un moyen particulièrement pertinent et fort de transmettre une émotion, parfois sans paroles. Et moi, je suis assez fan de la musique où on s'attache plus à la voix qu'au texte. Et puis, tout simplement, quand on est enfant, on ne parle pas anglais. Donc, on s'attache beaucoup plus au timbre de la voix et à l'expression de la voix qu'à l'expression du texte. Et aujourd'hui encore, moi, la plupart des chansons que je chantonne en anglais, je fais du yaourt, en fait. Je ne chante pas les paroles.
Elle l'a avoué.
Ah, mais bien sûr, évidemment. Sauf les chansons que j'apprends dans le cadre de mon travail, évidemment. Parce qu'en fait, ce qui me touche, c'est la mélodie et le rapport au son et à la voix, pas tant le texte.
Alors certains disent que cette chanson aurait magnifiquement accompagné un film de James Bond, d'accord ou pas d'accord ?
Totalement d'accord. Puis aujourd'hui, vous voyez, puis ça a été le cas avant, il y a souvent une chanson phare pour chaque film de James Bond. Il y a Billie Eilish, il y a Adele qui ont composé pour des James Bond. Et souvent, c'est la chanson du générique et la chanson du moment climax du film, le moment principal du film, la grande tension. Et cette chanson, je pense, aurait tout à fait pu se prêter à ça.
Là, une réplique culte, Bond. Je m'appelle Bond, James Bond. Alors on va la transposer et ça va faire Jingle, je m'appelle Jingle, RDC Jingle. Avec Stéphane sur RDC pour Donnez-nous vos notes. Donnez-nous vos notes, 93.4, 92.5 pour la région de Sainte. C'est aujourd'hui avec Zoé Fourré. Savez-vous, Zoé,
oui,
que sur RDC, dans cette émission, on joue?
D'accord, je ne savais pas.
Eh bien voilà, je vous l'apprends. Qu'est-ce que c'est que le jeu ? C'est une question que je vais poser en lien avec vous, avec notre invité. Qui est-ce qui joue toutes les auditrices, tous les auditeurs ? Comment jouer ? En répondant le premier ou la première à la question que je pose dans quelques instants. Qu'est-ce qu'on gagne ? On gagne un DVD ou un CD et une invitation à participer à une prochaine émission de la série Donnez-nous vos notes depuis les studios, savoir comment ça se passe de l'intérieur. Comment on gagne ? En composant le numéro du standard que je donne maintenant, c'est le 05 45 95 09 87. 05 45 95 09 87. Attention, seule la première personne qui donne la bonne réponse à la question que je pose a gagné. Il faut se précipiter, hein, parce qu'en général, il y a pas mal de gens qui appellent. Le numéro du standard, je le redonne, c'est le 05 45 95 09 87. Voici la question, Zoé. Vous n'avez pas le droit d'aider. Donc, silence radio, si je peux dire. La question, quel est le titre de la comédie musicale composée par Leonard Bernstein qui m'a permis de découvrir et d'admirer le talent de Zoé Fourré, l'invité du jour de l'émission Donnez-nous vos notes sur les ondes de RDC. Quel est le titre de la comédie musicale composée par Leonard Bernstein qui m'a permis de découvrir Zoé Fourré, voilà, 05 45 95 09 87. Qui a gagné ? Qui a gagné ? On le saura dans quelques minutes. Et c'est peut-être Zoé qui nous dira qui a gagné. Mystère.
Suspense.
Tout à l'heure, vous m'avez parlé, Zoé, de The Cure.
Absolument.
Allez, dites-moi qui c'est.
Pourquoi ? The Cure, c'est un groupe de rock très noir, très sombre, une sorte de dark rock, Et donc c'est un groupe, moi mes parents aiment beaucoup The Cure et m'ont transmis cet amour.
Ah, donc c'est la transmission familiale aussi, c'est important le bain musical.
Très largement, moi mes parents écoutent de la musique et quand j'étais petite ils écoutaient The Cure et avant que je naisse aussi, je crois même qu'ils ont un lien dans leur amour particulier, dans leur histoire à eux, avec The Cure. Et au final, ils en mettaient, et puis j'en écoutais, et puis ils me montraient les clips. Et puis j'avais 4 ans, et je regardais tous les jours les clips de The Cure, à base de suicide, de noirceur et de grandes araignées. Et j'étais vraiment très fan de cet univers-là. Et puis moi, c'est pareil, je pense que The Cure, Robert Smith notamment, c'est pareil, c'est la voix, je pense, qui m'a touchée. À nouveau, c'est pareil.
Au-delà du sens, alors. La musique de la voix, c'est-à-dire.
Mais en fait, j'ai découvert le sens quand je suis devenue adulte, j'ai écouté ces chansons, et je me suis rendu compte à quel point ces chansons me touchaient pour leur sens, en fait. Mais c'est seulement la voix qui partageait ce sens.
Alors certains disent que cette chanson, Lost, hein, c'est ça qu'on va entendre,
ouais,
c'est un magnifique joyau du groupe The Cure. Vous êtes d'accord ?
Je suis totalement d'accord. C'est une chanson qui fonctionne sous forme plus ou moins de boucle avec une incantation régulière, I can find myself. Enfin, en anglais, je n'arrive pas à me trouver, je n'arrive pas à me rencontrer.
Alors, ça veut dire perdu,
perdu,
hein, c'est ça,
ouais.
Alors faut que vous me guidiez un peu dans les paroles parce que je suis un peu perdu, moi.
Bien sûr, je vous guide.
De quoi ça parle, vous commencez?
C'est vraiment une chanson sur la difficulté à trouver son chemin, à se rencontrer soi-même, et ce moment où on a l'impression qu'on n'arrive jamais à se saisir soi. Et puis finalement, cette chanson, voilà, c'est cette forme un peu de boucle, et en fait c'est ce même thème musical, cette même mélodie et ce même texte de plus en plus aigu avec une montée de tous les instruments. Et quand j'étais enfant, je trouvais ça transcendantal à souhait, cette chanson. Je trouvais ça magnifique. Et oui, le clip,
un crescendo, on appelle ça, je crois, par accumulation.
Parfaitement, parfaitement.
On ajoute les instruments. C'est dans le Boléro de Ravel, par exemple.
Et alors, c'était assez étrange parce que le clip était quasiment impossible à trouver sur Internet, sauf sur une sorte de site un peu dark web. Et donc le clip, il est quasiment inexistant. Et c'est un appartement avec du papier peint qui se déchire pendant tout le clip. Et c'est une espèce de destruction d'une maison intérieure. Et je trouvais le clip incroyable quand j'étais enfant.
Destruction de soi par l'intérieur et de la maison dans laquelle on habite.
Exactement.
Corporellement et puis psychologiquement.
Sa propre maison.
C'est une incertitude, finalement, un manque, une crainte d'un manque de contrôle de sa propre identité dans la relation à l'autre ou aux autres. Allez, j'ose la question, c'est autobiographique un peu ou pas ?
Alors j'ai l'impression que tout le monde pourrait dire à la fois oui et non. Il y a toujours des moments où on se cherche, des moments où on se trouve. Et alors moi, en ce moment, non. J'ai l'impression de plutôt être dans une période de ma vie où je commence à me trouver vraiment de plus en plus. Mais c'est le début. Et en même temps, cette chanson, à l'âge que j'avais là, à 4 ans, je ne sais pas si elle résonnait d'une manière aussi profonde. Elle m'a parlé à plein de moments dans ma vie, notamment à l'adolescence, je pense, principalement. Mmh. Et puis c'est une chanson que j'ai voulu intégrer à ce fameux spectacle. Et en fait, je me suis rendu compte que je n'arrivais pas à la chanter. En fait, je ne voulais pas la chanter parce que je trouvais ça pas du tout assez beau, ce que je faisais. Et je me suis dit, mais je ne peux pas mal chanter cette chanson, ça me désolerait. Et donc, je l'ai enlevée, en fait. Je ne l'ai jamais chantée sur scène, cette chanson, parce qu'elle est trop importante, en fait, pour
on
moi.
L'écoute.
Et j'arrive pas à ne pas la chanter bien.
Voici, on a retrouvé Lost, ça tombe bien.
Voilà.
C'est parti.
I can't find myself. I can't find myself. I can't find myself. I can't find myself. In the head of the stranger in love, holding on, giving all to another under fading setting sun. And I wonder where I am. She run away with him, so happy and so young. And I stare as I sit in the lost voice of a stranger in love. Out of time, letting go in another world that spins around for fun. And I wonder where I am. Could he ever ask her why? So happy and so young. And I stare.
Alors, c'est une chanson dark. Ça me fait penser à la nuit, ça.
Ouais.
Et alors, ouais. La nuit, parfois, il y en a un qui a dit qu'il y avait une reine. C'était là, il l'a appelée la reine de la nuit.
La reine de la nuit de la flûte enchantée de Wolfgang Amadeus Mozart, le grand. Ben,
pourquoi vous avez retenu cette chanson, cette air?
Oh, ça, c'est vraiment très, très drôle. Quand j'étais enfant, quand j'étais en CM2, j'ai eu une merveilleuse institutrice, une maîtresse que j'adorais, qui nous faisait travailler l'allemand. Et chaque année, elle montait un spectacle où elle faisait faire à ses élèves un voyage en Allemagne. Donc chaque année...
En Allemagne aussi, peut-être.
Et voilà, exactement. Et cette année-là, elle a monté la flûte enchantée sous forme de pièce de théâtre. Et moi, j'étais déjà en chant au conservatoire de mon arrondissement à Paris. Et donc, elle a dit à mon prof de chant...
C'était quel arrondissement ?
Dans le 9e. Mmh. J'habitais dans le 9e. Et donc, elle a dit au prof de musique de ma classe, il faudrait qu'elle chante. Et donc, ce professeur de musique m'a fait chanter La Reine de la Nuit. Pour la première fois, j'ai chanté sur scène de l'opéra. Et j'avais peut-être 10 ans. Et c'est, en plus, c'est un morceau qui est extrêmement difficile, qui est réputé pour ses difficultés. D'ailleurs, j'ai encore le DVD de ce spectacle. Et ça a été mon premier air d'opéra sur scène. Alors, évidemment, avec le niveau que j'avais à l'époque. Et ça a été mon premier vécu d'opéra, en fait. La Reine de la Nuit.
C'est resté, à tout jamais, ça reste.
Bah, c'est un souvenir qui est très fort parce que j'avais vraiment une grande robe de chanteuse d'opéra, j'avais tout l'attirail, mes versions école primaire en fait, de ce qu'est en fait une production d'opéra. Il y avait du décor, j'avais plein de partenaires sur scène, donc j'ai vécu pour la première fois cette expérience. Et je me souviens que j'ai joué le jeu à fond, j'étais hyper à fond dans mon rôle, j'adorais ça. Et j'ai pour la première fois aussi perçu, c'est un peu égocentrique de dire ça, mais l'admiration que générait ce type de manière d'utiliser sa voix. Je me souviens que les parents sont venus à la fin en me disant mais comment c'est possible, c'est du playback. Et toute l'école a pensé que c'était du playback. Et je leur ai dit, non, pas du tout.
Est-ce que ça a contribué à faire de vous la chanteuse que vous êtes aujourd'hui ?
Ah oui, carrément, parce que c'est l'année d'après où je suis rentrée à la maîtrise de Radio France, donc c'est vraiment les années où j'ai commencé à m'impliquer beaucoup dans la musique. Et je pense que c'est ça qui ça fait partie des éléments qui ont généré mon envie de faire ce métier.
Alors la flûte enchantée, c'est quelque chose qui repose sur une dualité, une opposition entre la lumière, au sens de connaissance, et l'obscurantisme au sens d'ignorance, finalement.
Absolument.
La dualité entre ces deux directions parcourt toute l'œuvre. C'est la lutte entre le bien et le mal, entre le jour et la nuit. C'est la nuit qui fait obstacle à la volonté humaine de connaissance des choses. Et puis la nuit représente ce qui ne peut pas être connu, la figure même du mystère, finalement. Papageno, un des personnages de l'opéra, il le dit avec ces mots que je cite, « Quel regard humain saurait percer son voile tissé de noir ?»
C'est magnifique.
Fort, c'est fort comme parole. Sans doute faut-il chercher à voir dans la majesté cosmique du personnage de la Reine de la Nuit une vérité, une révélation à venir, une vérité qui donne l'impulsion première à la quête et à l'appel pour arriver à la lumière. La Reine de la Nuit serait donc à la source même de cette illumination future et en même temps la puissance de cette illumination qui viendra la détruire. Donc elle va générer quelque chose, elle va contribuer à générer quelque chose qui va la détruire. C'est terrible comme rôle.
Ouais, puis c'est pas quelqu'un de fondamentalement gentil en fait. La Reine de la Nuit, c'est quelqu'un d'assez possessif. C'est une personne qui souffre, qui a un rapport très particulier à sa fille et qui, j'ai pas envie de dire que c'est la méchante de l'opéra, mais presque. Et pourtant, c'est l'un des personnages qu'on a le plus admiré, je pense, dans l'opéra, notamment parce qu'elle a cette vocalité imposée par la partition, une vocalité très haute, très aiguë, avec une volonté d'avoir une voix très souple, qui est capable de proposer des motifs qui pourraient s'apparenter à des motifs de flûte ou de violon, enfin, avec des notes très piquées, donc des notes très courtes chantées. Et c'est des airs qui sont réputés pour leur dimension très vaillante sur le plan vocal. Alors, en fait, c'est pas beaucoup plus difficile qu'autre chose, quelque part. C'est juste que c'est impressionnant, je pense, à la première écoute.
Pas difficile, c'est une façon de parler. En tout cas, ça prouve qu'il fait pas toujours bon être reine, n'est-ce pas ?
Ah, ça, c'est certain.
Ça, c'est un petit clin d'œil à Philomène, qui a été invité il y a quelques temps et dont le dernier CD s'appelle Je suis reine, mais pas
super,
reine
hein.
De la nuit. Alors on écoute maintenant, c'est l'air de la Reine de la Nuit, c'est des extraits de la flûte enchantée de Wolfgang Amadeus Mozart.
Oh!
Oui, alors moi je qualifie ça de virtuose hein, quand même.
Ouais, oui, oui, il y a une virtuosité, ah, ouais, c'est clair.
Notamment sur la fin de l'extrait qu'on vient d'entendre, où il y a un écho dans l'aigu qui est un écho, donc qui est moins fort que la première fois.
Ouais.
Voilà, et je suis toujours sidéré de voir les chanteuses et le masque qu'elles prennent, l'ouverture de bouche. Assez
ça vient mobiliser une partie très très fine des cordes vocales, ça vient faire vibrer une zone très fine des cordes, et au final, chanter, c'est aussi apprendre à utiliser ses cordes vocales hein, d'une manière plus ou moins consciente, et dans ces airs-là, je pense que c'est une utilisation des cordes vocales qui est très particulière. Ouais.
Est-ce que vous savez, Zoé, du haut de vos 23 ans, allez, je vais le dire.
24,
oh,
depuis deux mois.
Je vais rajeunir. Oh, bah,
c'est vraiment pas grave.
Est-ce que vous savez que l'amour est parfois un oiseau rebelle ?
Ah ça, mon Dieu, on ne le sait que trop. Hein.
Évidemment, cet extrait de Carmen, on va parler de Carmen,
l'opéra
de Georges Bizet, un opéra comique, comme on dit. Ça veut dire que parfois, il y a des passages parlés.
Ouais.
Ça
ne
veut pas dire que c'est marrant, finalement. Hein.
Ah non, c'est pas marrant, Carmen.
Composé sur un livret de Meillac et Halévy, un opéra comique, c'est quand même, donc, je le disais, une appellation surprenante, mm-hmm. et pourtant rien à voir avec le comique troupier ou d'autres. C'est le même titre que celui d'une nouvelle dont Bizet s'est inspiré, la nouvelle de Prosper Mérimée. C'est une adaptation, on pourrait dire. On pourrait rapprocher Carmen d'une forme d'orientalisme, car tout se déroule dans une Espagne imaginaire.
Ouais.
Il se dit que Bizet ne serait jamais allé dans la péninsule ibérique.
Absolument. Vrai ou
faux, j'en sais rien.
Et jamais allé à Séville.
À la différence de Mérimée, il a choisi de faire de Carmen le personnage principal de son histoire, et à contre-pied du carcan moral qui s'abat sur son époque, parce que, disons-le directement, la manière nette de Carmen, elle a pu et elle peut encore heurter ce qu'on pourrait appeler les bonnes consciences. L'amour est un oiseau rebelle que nul ne peut apprivoiser. C'est l'air célébrissime que vous avez choisi de nous faire entendre ce 17 avril dans Donnez-nous vos notes sur RDC. On écoute ?
Oui.
Alors c'est l'interprétation de Elina Garanja.
Amore, amore, belle, che ne peta primase, e se piano fa cola fel, si ricovia d'erre fisi. L'autre c'était, c'est l'autre que je préfère, il n'a rien dit, mais il m'a
Alors tout le monde a entendu ça au moins une fois directement ou en reprise ou en détournement même. Il y a eu des pubs avec cet air-là. Au moment de sa création, il faut quand même savoir que l'opéra, ben, il n'a pas connu le succès hein, tout de suite.
Du tout. Ouais.
Il est venu plus tard, paraît-il, avec ou grâce à l'interprétation à Bruxelles, clin d'œil à la Belgique, de Minnie Hawk, qui était une chanteuse très célèbre et très talentueuse de l'époque. Et c'est sa manière de chanter qui a entraîné un succès immédiat. Mais là, ce qu'il faut retenir, c'est le tempo assez lent retenu par la chanteuse, le chef, je ne sais pas. Et puis, Georges Bizet, il mourra, lui, malheureusement pour lui, sans savoir que son dernier opéra allait devenir l'un des plus grands succès de la musique et l'un des plus joués à ce jour dans le monde. Bon, alors, l'histoire, très vite, on est en Espagne, à Séville. Carmen est arrêtée suite à une dispute avec ses collègues de la fabrique de cigares. Bon, la Habanera, moi je l'aurais mis à la Havane et je l'aurais pas mis en Espagne, mais bon, voilà. C'est une Espagne imaginaire. Hein. En fait, c'est le loin de France, quoi.
C'est ça, c'est absolument. C'est le mouvement de l'orientalisme à ce moment-là, au XIXe siècle.
Et puis, elle séduit un militaire qui s'appelle
Don José.
Voilà, et elle lui dit, si tu m'aides, je serai ta maîtresse, en fait.
Ouais, si tu m'aides à sortir, on est ensemble.
Ouais. Alors, ben, lui, il va céder. Hein. Et puis, finalement, elle va rencontrer un autre qui est un toréador, qui s'appelle Escamillo. Et puis, il y a Micaela qui viendra, qui était la promise de Don José, finalement, et qui viendra essayer d'expliquer à José qu'il faut être sage, qu'il faut raison garder, et puis que sa maman est mourante. Et donc, il y a plein de choses qui alterne, on va dire, entre le très triste et parfois une forme d'humour, tiens, je vais dire, dans cet opéra, même s'il n'est pas apparent tout de suite. Et puis à la fin, qu'est-ce qui se passe? C'est devant les arènes, c'est José qui est caché parmi les spectateurs, qui s'éloigne, qui s'isole, et il arrive à rencontrer Carmen et lui dit « Reviens avec moi, c'est la dernière fois que je te le demande. » Et qu'est-ce qu'elle dit, Carmen?
Elle lui dit non.
Elle dit non, et elle lui chante « Non, tu voilà. Fais attention, je vais devenir violent, lui dit-il, je vais te tuer. » Et d'ailleurs, c'est ce qu'il fait. « Vous pouvez m'arrêter, c'est moi qui l'ai tué. » C'est ses dernières paroles.
L'un des innombrables féminicides de l'opéra.
Voilà, bah oui, parce que...
Il y en a.
Ouais. En tout cas, c'est très poignant. Et j'ai en mémoire plusieurs versions de cet opéra et donc des dernières paroles chantées, notamment par Kevin Amiel, que je salue à distance, et qui les a encore récemment interprétées à Hong Kong avec le grand talent qui est le sien. Et en outre, il vient de sortir, ce Kevin, un CD magistral. Que des tubes d'opéra. Alors super Kevin, bravo. Et puis Kevin, c'est quand tu veux que tu seras évidemment un des invités à la suite de Zoé Fourré. Alors, Carmen, c'est rouge.
Oui.
En tout cas, si vous me donnez quelle couleur.
Oui, c'est rouge, c'est rouge et noir, quoi. Les robes de bohémienne, c'est rouge et noir.
L'Espagne, c'est rouge.
Oui, oui, oui. Tout à fait.
Mais parfois, c'est bleu. Alors là, vous m'avez sidéré quand vous m'avez parlé de Blue Carmen ou Carmen Blue. Je ne sais pas dans quelle heure vous voulez le mettre.
Blue Carmen, tout à fait.
Alors, qu'est-ce que c'est que ça?
Alors, que ça, c'est une histoire rigolote. C'était le confinement en 2020. Et je me suis rendu compte, à ce moment-là de ma vie, j'étais encore en études au conservatoire à Paris, que le répertoire lyrique. J'aimais potentiellement le chanter, mais finalement, j'écoute très peu de musique classique au quotidien, alors que c'est mon métier. Et je me suis dit, non mais attends.
Ça veut dire que c'est un ras-le-bol ?
Ça veut dire surtout que j'ai fait de la musique classique très jeune, que j'ai étudié la musique classique pendant longtemps, et que je ne me suis pas régulièrement reposé la question de est-ce que j'ai vraiment envie de faire ce métier ou pas. En fait, ça a été un tourbillon à partir du moment où j'ai commencé à faire ça. En horaire aménagé, comme je le disais, je ne me suis plus posé la question, j'ai juste continué. Et puis à ce moment-là, au confinement, je me suis dit, non mais attends Zoé, en fait, si tu veux te rapprocher de la musique que tu écoutes vraiment dans la vie, et si tu veux finir par faire la musique que tu aimes le plus, qu'est-ce que c'est? Et en fait, moi j'écoute énormément de pop, d'électro et de rock. Et donc je me suis dit, mais...
Et vous en chantez aussi.
Et j'en chante aussi. Donc je me suis dit, pourquoi ne pas créer un projet qui mélangerait la voix lyrique, qui est la voix que j'ai développée, qui maintenant est ma voix, avec de la musique électronique et du texte en français, plus accessible que l'opéra, avec des formes de chansons, donc beaucoup plus courtes qu'un opéra. Donc pourquoi ne pas créer un projet de musique électro-pop, de la musique électro et de la pop, avec de la voix lyrique? Et donc à ce moment-là, j'ai écrit tout un mémoire dans le cadre de mes études sur la place de la voix lyrique dans la musique populaire, qui a notamment eu un rôle assez fort dans le métal et dans le hard rock. Mais donc voilà, il y a eu un moment où il y a des chanteuses lyriques qui ont chanté dans des groupes de métal. Donc il y a eu ça, mais à part ça, il n'y a pas eu...
Je veux saluer, c'est Emmanuel Zoldan, qui est une de vos collègues, et qui chante aussi dans un groupe norvégien, notamment une reprise de Voyage Voyage.
N'est-ce pas ?
C'est assez sidérant d'ailleurs.
Mais en réalité, à part ce mix-là qui a existé, il n'y a pas eu beaucoup de contacts, en tout cas pas assez à mon goût, entre la voix lyrique et la musique pop. La musique pop, comme on la définirait aujourd'hui, parce que l'opéra, ça a été un art populaire à une époque, évidemment.
Pop, mais... ça veut dire populaire, il ne faut jamais l'oublier.
Exactement. Hein. Mais aujourd'hui, si on parle de musique pop, on va parler de la variété. En France, par exemple, il y a très peu de liens entre la voix lyrique et la variété. Donc moi, j'ai eu envie de créer ce mélange que j'ai très très peu connu en tant qu'auditrice dans ma vie.
Et alors, pourquoi Blue ?
Pourquoi Blue ? Parce que, alors au final, Blue Carmen, pour moi, l'idée, c'était de remettre en scène un grand personnage de l'opéra, puis une femme très indépendante, très forte, donc le personnage de Carmen, qui parle un peu à tout le monde dès l'écoute de ce prénom. Moi, je trouve que ça nous renvoie très vite à l'opéra, quand même. Et puis Blue, parce que c'est une Carmen de nuit qui vit dans des milieux électroniques, dans des boîtes.
Il y a un lien avec le blues aussi ou pas ?
Pas du tout, absolument pas. C'est une culture que j'ai absolument pas. Il n'y a pas de lien à la blue note du blues.
Le blues au sens du blues mental.
Non plus. D'accord. C'était vraiment l'idée de créer une Carmen électronique, une Carmen actuelle, une pop Carmen.
Alors il y a des gens qui travaillent avec vous, qui ont travaillé avec vous. La musique et le texte, c'est vous.
Oui.
Et les guitares et claviers, percussion, réalisation, montage, étalonnage, je pense que ça veut dire.
C'est la couleur dans les vidéos, l'étalonnage.
D'accord. Et puis mix et master, c'est quoi ça?
Le mix et le master, c'est quand on écrit une chanson, on va associer des pistes de guitare, de voix, de percussion, on va tout mettre sur un logiciel et puis il va falloir équilibrer ces différentes pistes. Est-ce qu'on veut plus entendre la voix? Est-ce qu'on veut plus entendre la guitare? Est-ce qu'on veut que la partie aiguë de tel violon ressorte plus? En fait, on va équilibrer les sons et ça, c'est, on fait ça sur un logiciel, sur un ordinateur. Absolument.
Des intentions d'interprétation.
Exactement. Et le master, c'est pareil, mais c'est la version finale de la chanson. C'est quand on va vraiment équilibrer tous les sons avant la sortie de la chanson. On refait une sorte de dernier tour sur la chanson et on masterise.
Donc j'ai un peu l'impression, dites-moi si je me trompe, Zoé, mais qu'avec Blue Carmen et avec ce qu'on va entendre, c'est un peu le carrefour entre toutes les dimensions de l'art que vous aimez pratiquer, entendre.
Ah, c'est exactement ça. Et malheureusement, c'est un projet que je n'ai pas du tout le temps d'alimenter assez par rapport à ce que j'aimerais faire. J'aimerais bien lui donner un deuxième opus, un premier vrai album dans quelques années. Mais à chaque fois, il faut penser à l'univers visuel, la com, la diffusion. C'est des projets autogérés qui prennent un grand, grand temps dans la création, mais aussi dans tout ce qui doit être mis en œuvre pour maintenir le projet à flot derrière, notamment, par exemple, les réseaux sociaux. Aujourd'hui, le fait de sortir la musique sur des plateformes.
La pub, la com, etc.
Exactement. Donc moi, comme j'ai une vie d'interprète au quotidien aussi beaucoup, j'ai pas toujours le temps de créer et de maintenir ces projets-là pour qu'ils aient une visibilité.
En tout cas, j'ai dit au carrefour de ce que vous êtes et de ce que vous faites et de ce que vous aimez faire. Et je voudrais faire référence à une citation de Paul McCartney, un des Beatles, qui disait « La plupart de mes chansons sont fondées sur mon expérience de vie. » Mais ma manière de faire est de le cacher. C'est intéressant, ça. Il crée des chansons sur lui, sur ce qu'il rencontre, mais la manière de chanter, c'est cacher ce qu'il est à travers les chansons, c'est cacher ce qu'il avoue. C'est terrible.
J'ai l'impression que la voix chantée, soit c'est un rapport qu'on a à soi-même très direct et très simple. J'espère que dans parfois la variété et la pop, on trouve ce rapport-là à sa voix. Ou alors c'est une voix très travaillée, c'est le cas en lyrique. Et moi, je trouve du coup que ça émane pas forcément de l'intimité. Et moi, par exemple, la construction de ma voix, ça n'a pas été tant en lien avec mon intimité. Enfin, évidemment, si, parce que c'est un lien au corps. Mais moi, quand je chante du lyrique, j'ai pas l'impression de confier mon intimité. Quand je chante de la pop, un petit peu plus.
Ah,
et donc, au final...
Ça veut dire qu'on peut plus se cacher dans un domaine ou dans l'autre, alors, finalement.
Moi, je trouve qu'on se cache plus facilement dans les domaines où l'esthétique, elle est très travaillée et très loin de l'humanité de base. En fait, le chant lyrique, c'est une voix qui est hyper travaillée, qui est hyper construite, qui est, j'ai pas envie de dire trafiquée, mais qui est vraiment... C'est brique par brique. On met 10 ans environ à construire une voix lyrique. Et moi, quand je chante du lyrique, c'est terrible, mais j'ai plus l'impression que ce soit moi. Mais ça, c'est parce que c'est mon rapport à moi au lyrique, ouais. Et j'ai plein de copines qui font du lyrique et c'est vraiment elles qui chantent, quoi. Moi, c'est pas vraiment
autant
mon
de personnes, autant de manières d'être et de penser et de faire.
Exactement.
Si on faisait un saut dans l'étrange,
le saut dans l'étrange,
c'est le titre de ce que nous allons entendre maintenant, c'est vous qui interprétez et c'est extrait de Blue Carmen, c'est ça?
C'est ça, c'est le titre et c'est le titre aussi de mon premier EP, de mon premier ensemble de chansons que j'ai sorti. Donc c'est le titre de la chanson phare de mon projet. Et voilà, saut dans l'étrange parce EP. Que EP, c'est un ensemble de quelques chansons, c'est plus petit qu'un album.
C'est maintenant.
Les récits intimes sont des témoignages. Ton histoire propre est celle de chacun. Illégitime, c'est ton illusion. Sors de son corps. T'as gagné au change, goûter encore aux fruits interdits, jusqu'à prononcer l'attendue sentence, ressent la présence de ta différence. On t'a jamais dit ? Viens, lève-toi, expire.
Auditrice, auditeur, vous entendez, je trouve, la précision vocale et puis les des effets, donc tout le travail de mixage dont Zoé nous a parlé tout à l'heure.
Absolument. C'est là pour le coup la version qu'on est en train d'écouter, c'est une version live, donc c'est extrait d'un set, d'un moment où on l'a donné ensemble avec le percussionniste, exactement, et le guitariste, claviériste avec lequel je travaille. Et c'est une chanson qui parle d'une histoire d'amour qui date de mes 18-19 ans.
Ah, ça parle encore de vous, hein.
Et n'est-ce pas, quand même. Alors dans ce premier opus de ce projet, c'est marrant, il y a des chansons qui parlent de moi et d'autres pas, mais celle-là, oui, carrément. Et c'était ma première histoire d'amour, en réalité, mon premier vrai émoi amoureux quand j'étais au sortir du lycée. Et c'était très bizarre pour moi parce que c'était avec une femme. Et du coup, c'était un peu un saut dans un univers que je connaissais pas à ce moment-là. Et donc, voilà, d'où le nom, Saut dans l'étrange. Et puis par ailleurs, le saut dans cette esthétique que je découvrais moi-même, qui était la musique électronique avec de la voix un peu lyrique. Donc c'était un saut, la proposition en fait d'un saut collectif dans cette esthétique électro-lyrique.
Sautons, oui, mais tous ensemble, ça fera moins
c'est
mal.
Exactement ça. Donc voilà, l'électro-lyrique, c'est le style que j'aimerais créer.
Tout
dans
à l'heure, on parlait de l'instrument avant, la voix, le flûtiste, on parle d'un trompettiste maintenant. Lequel?
Ah oui,
lequel?
Ibrahim Malouf.
Ah, ça vous plaît ça?
Alors Ibrahim Malouf, il travaillait, quand j'étais jeune, avec la maîtrise de Radio France beaucoup, donc la formation dans laquelle j'étais. Et quand il avait besoin d'un chœur d'enfant sur un spectacle ou sur un album, il faisait souvent appel à nous. Donc on a enregistré avec lui son album Au pays d'Alice avec Oxmo Puccino, le rappeur. Et puis on a fait avec lui des scènes, comme par exemple on est allé au festival de jazz à Vienne en France. On a fait l'Olympia, on a fait la ST de la musique, on a fait des choses très très fortes avec lui. Et moi j'ai un souvenir très très intense d'un concert à l'Olympia avec ce monsieur, dans lequel on entrait sur scène dans le noir et il y avait Juliette Gréco qui chantait, qui était invitée, donc c'est une surprise pour le public, et elle savait pas elle-même qu'il y avait un chœur d'enfant, et elle adorait les chœurs d'enfant. Donc en fait, la lumière s'allumait sur nous et elle se retournait, elle savait pas qu'on était là, et elle a pleuré en fait. Et j'ai un souvenir hyper fort de ce moment où pour le public c'était une surprise qu'elle soit là, que le chœur soit là, donc le public il avait une triple surprise et ils ont hurlé pendant toute la chanson. Et c'est la première fois que j'ai eu accès à non pas à un public de musique classique mais à un public en fosse d'une salle de concert plus pop. Et c'est ça la premier moment qui m'a donné envie de faire pas que de la musique classique.
Et tout ça c'est de la réalité, c'est pas des illusions.
Non non.
Et pourtant ce qu'on va entendre ça s'appelle illusion, je crois.
Et c'est le titre de cette chanson qu'on a chantée à l'Olympia.
Allez. Des paroles d'auditeurs ou d'auditrices qui parlent de ce que vous venez d'entendre, chères auditrices et chers auditeurs. Est-ce que Zoé a choisi pour nous? Zoé, vous me dites simplement dac ou pas dac après chaque parole, après chaque message. Premier message d'un auditeur: je ne saurais dire pourquoi cette musique accompagne ma vie. Dac ou pas dac?
Pas dac.
L'artiste qui fait passer des émotions, c'est lui parmi d'autres. Dac ou pas dac? Il parle de Bremen.
Dac, ouais.
Et le dernier, c'est de l'anglais, pardon, no comment. Et puis on revient en français, tout simplement, waouh, dac ou pas dac?
Ouais, dac.
Alors, si je vous dis jingle, dac ou pas dac?
Dac.
Donnez-nous vos notes, c'est sur R, D, C, 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 C. Un requiem allemand, je ne savais même pas que ça existait, moi. Alors, qu'est-ce que c'est que ça?
Le requiem allemand, c'est une magnifique pièce, donc c'est un requiem. Le requiem, c'est dans le répertoire sacré, c'est une pièce qui est liée à la mort, aux cérémonies pour célébrer la mort. Et le requiem, donc il y a plusieurs mouvements, il y a jusqu'au moment où on monte au ciel avec In Paradisum à la fin des requiem. Et donc Johannes Brahms...
In Paradisum, ça veut dire au paradis.
Au paradis, non, ouais, monter vers le paradis. Et souvent d'ailleurs, c'est des morceaux qui sont écrits dans un registre assez aigu pour monter vers le ciel. Et Johannes Brahms, donc compositeur allemand du 19e siècle, a écrit un requiem allemand. Donc c'est son requiem à lui, c'est sa perception à lui du requiem. Et c'est une œuvre magnifique en allemand.
Oui, parce que chaque compositeur, plusieurs compositeurs ont écrit des requiem. On connaît celui de Mozart, de Verdi,
de Forêt,
etc. Je crois que c'est celui de Forêt qui vous parle beaucoup.
Oui, beaucoup aussi. Et là, la particularité de ce requiem-là, c'est qu'il n'est pas écrit en latin, alors que c'est souvent le cas. Il est écrit en allemand, en fait.
C'est pour ça qu'il s'appelle requiem allemand.
Oui, absolument.
Là. D'accord. Et alors, on va écouter un extrait. Je crois que vous avez participé hein, encore à ce qu'on va entendre, c'est ça?
Absolument.
C'est le chœur de Radio France avec la maîtrise. C'est Daniel Gatti qui dirige, c'est ça?
Oui.
Avec une soprano qui s'appelle Annette Dash, et puis un baryton qui s'appelle Peter Mattei. Je crois que c'était enregistré lors d'un festival à Saint-Denis. Vous y étiez ou pas dans cette version?
Oui, mais alors non, dans cette version-là, j'y étais pas. À Saint-Denis, j'ai fait le requiem de Forêt, et le requiem allemand, j'ai chanté à l'abbaye de Sainte, juste à côté d'ici, il y a quelques années.
Ouais, mais là, la version qu'on a, c'est quand même à Saint-Denis, mais pas la même année que...
Mais c'est pas grave, c'est proche de ce que j'ai connu, quoi qu'il en soit.
En tout cas, moi, je pense que assister à un concert dans cette basilique à Saint-Denis, c'est quand même super. C'est important, le lieu dans lequel se déroule un concert.
Oui, et puis la basilique de Saint-Denis, moi j'y ai chanté le requiem de Forêt quand j'avais 11-12 ans. C'est l'un de mes premiers grands souvenirs de musique sacrée. C'est un endroit dans lequel le son résonne beaucoup. Hein. L'acoustique des basiliques et des églises, souvent, il y a une grande résonance. Donc on n'y joue pas tous les types de musique. Ouais. On y joue des musiques qui supportent bien ce genre d'acoustique. Et les requiem, la musique sacrée, globalement, supporte bien ce genre d'acoustique. Et c'est souvent des moments de grâce parce que la musique a presque été écrite en fait pour ce type d'acoustique, et donc on sent une forme d'alignement entre le son qu'on produit, l'endroit dans lequel ça résonne, et on sent une cohérence. Et moi, c'est ça que j'adore quand on fait du répertoire sacré dans les églises, les basiliques ou les cathédrales, c'est cet alignement.
Alors la conclusion de ce requiem, c'est la promesse du sermon, sur la montagne. C'est le sermon qui porte sur l'éthique, et c'est le plus long enseignement oral du Nouveau Testament. Dans ce sermon, il y a notamment la prière du Notre Père que tout le monde connaît. C'est ce que Jésus aurait adressé à ses disciples, ainsi qu'à une large foule. Le discours aurait été prononcé du haut d'une montagne, d'où le nom de sermon sur la montagne, près du lac de Tibériade. Et on écoute maintenant un court extrait du second mouvement. C'est le requiem allemand de Johannes Brahms. Allez, on change encore d'univers, on change d'époque. Après Brahms, on parle de Britten, c'est ça?
Benjamin Britten.
Alors, qu'est-ce que vous allez nous faire entendre? Qu'est-ce que vous avez choisi?
Calypso. Alors, en réalité, Benjamin Britten, ce qui est assez intéressant, c'est que c'est un compositeur de musique classique aussi, mais il a écrit du répertoire un peu plus populaire, des chansons, et ce qu'on appelle du cabaret lyrique. Moi, c'est comme ça que j'appelle ça, en tout cas.
On passe du requiem au cabaret, c'est quand même...
C'est quand même très fou. Et en fait, ça, c'est le XXe siècle, Benjamin Britten, en Angleterre. C'est, pour moi, un répertoire qui va se situer un peu entre le lyrique et la pop, dans le sens où c'est de la chanson, mais avec des voix lyriques. Et ça se rapproche, souvent c'est des sujets, c'est des petites historiettes, c'est de l'amour, c'est des sujets assez accessibles, assez en anglais. Et ce qui est très beau dans ce répertoire-là, c'est que ça permet, je trouve, d'aborder la voix lyrique d'une manière plus simple, moins empruntée que dans l'opéra. Et c'est le répertoire que je préfère, moi, dans le lyrique, c'est le XXe siècle, le XXIe siècle. Donc la période moderne et la période contemporaine, le cabaret lyrique, les opéras de cette époque-là, jusqu'à aujourd'hui la musique contemporaine avec plein d'expérimentations vocales possibles. Et le cabaret lyrique, c'est... un répertoire que j'ai beaucoup étudié au conservatoire par choix, c'était pas forcément proposé, mais moi j'ai demandé à mes profs de chanter ce répertoire-là parce que c'est là que je me sens le mieux et presque
voilà que
le plus...
Les élèves ont des exigences maintenant.
Mais c'est presque là que je me sens le plus légitime en fait, parce que c'est cet endroit entre la musique plus accessible qui demande moins de grandes prouesses vocales, mais qui est quand même très précis.
Alors on a quatre chansons de cabaret qui ont été composées par Britten. Elles ont été publiées après son décès. Écrite pour A.D. Anderson, une chanteuse spécialisée dans l'interprétation de la musique légère, de haute qualité, comme je vais oser qualifier ce qu'on va entendre maintenant. Midnight on the Great Western, c'est un poème sur lequel se fondent ces chansons-là, et c'est un poème de Thomas Hardy qui relate l'histoire d'un jeune garçon parti vers une destination inconnue depuis un lieu inconnu. Alors je vais oser un lien, moi, un rapprochement éventuel avec le saut dans l'étrange. Parce que l'étrange, c'est un peu l'inconnu, à moins que ce soit l'inverse. Mm-hmm. On ne sait pas d'où on part, on ne sait pas où on va, ou au contraire. Et puis, il y a une auditrice qui a déclaré à propos de Calypso de Britten, magnifique, le chant se déroule comme un film. Et puis, il y a des images mentales qu'on va maintenant se créer en écoutant Calypso.
S'il peut vous donner une petite indication, c'est une femme dans un taxi qui doit aller retrouver quelqu'un. Donc, la musique, c'est un voyage en taxi.
Alors, c'est maintenant. Alors, on vient de la chanson. Bury a Friend. Alors, c'est encore un truc pas gay, ça.
Enterre ton ami.
Alors, pourquoi ça? Billie Eilish.
Billie Eilish, c'est une artiste qui a un grand succès mondial depuis quelques années, qui à mon âge, je crois qu'elle a même un an moins que moi, elle est très très jeune. Et ce qui est impressionnant, c'est que je trouve qu'il y a plein de références musicales différentes dans ce qu'elle écrit. Elle écrit de la musique avec son frère. C'est une femme qui propose des messages quand même relativement forts et actuels et qui part de sujets très intimes, et beaucoup de gens vraiment s'identifient, je pense, à ses chansons, beaucoup de jeunes femmes notamment. Et donc Billie Eilish, pour ma génération, c'est arrivé quand j'avais environ 17-18 ans, c'est un choc musical réel, parce que c'est quelqu'un qui crée des chansons à la fois un peu expérimentales et à la fois très grand public, avec une sincérité qui, moi, me dépasse totalement. Et j'aime beaucoup, beaucoup son travail. Ouais.
Alors là, elle fait référence à un ami, Bury a Friend, je vais en dire un ami, mais en fait, on écoute un peu, on décortique, c'est elle l'ami. C'est-à-dire qu'elle veut se tuer elle-même. Dites, Zoé, ça fout les chocottes, ça, non?
Ouais, alors ça, j'avoue que les paroles, en l'occurrence, ne me parlent pas particulièrement. C'est le rapport à la musique que je trouve fou dans cette chanson. Et chez cette personne, et avec son frère, ils écrivent une musique qui, je trouve, traduit très bien le texte. Et au final, même si le sens du texte, on se l'approprie pas forcément, la musique est vraiment frappante.
Et puis c'est une déclinaison d'une forme de lutte entre le bien et le mal. Elle veut se tuer tout en... voilà. Et donc on revient à la Reine de la Nuit dont on parlait tout à l'heure.
Absolument.
Et puis à Dr. Jekyll et Mr. Hyde, c'est-à-dire de facettes d'une même personne, c'est ça?
Ouais.
C'est une nouvelle déclinaison finalement de la lutte entre le bien et le mal. Et au final, il y a pas mal de liens entre vos choix musicaux. C'est un hasard ou quoi?
Je pense qu'au final, tellement de gens ont... aborder des thématiques universelles et communes que les liens y se créent malgré moi. Par contre, ce qui est sûr, c'est que dans mes écoutes, il y a beaucoup de femmes, il y a beaucoup de voix de femmes. Et la Reine de la Nuit, Billie Eilish, Carmen, ce sont des voix de femmes. Et là, dans l'univers dont vous parlez chez Billie Eilish, il y a tout un univers autour effectivement du démon et de l'ange, notamment dans cet album et dans ces clips là. Et je trouve qu'il y a quelque chose de très théâtral en fait dans Billie Eilish. Je pense que c'est ça que j'aime, c'est cette dimension très théâtrale.
Alors c'est ce qu'on va écouter maintenant, parce qu'on va peut-être ressentir tout ce que vous nous dites à travers la musique et les paroles. Maintenant.
What do you want from me? Why don't you run from me? What are you wondering? What do you know? Why aren't you scared of me? Why do you care for me? When we all fall asleep, where do we go?
Come here.
Say it, spit it out. What is it exactly? Your pain is the amount cleaning you out. Am I satisfactory? Today I'm thinking about the things that are deadly. The way I'm drinking you down, like I wanna drown, like I wanna end me. Step on the glass, staple your tongue. Bury a friend, try to wake up. Cannibal class, killing the sun. Bury a friend, I wanna end me.
Je sens comme une... comment dire, un malaise qui monte progressivement dans ce qu'on vient entendre. Moi, je voudrais respirer un peu maintenant, s'il vous plaît. Alors, ça tombe bien parce que la suite, ça s'appelle Respire.
Respire, alors, Pierre Jodowski.
Faites-nous respirer.
Alors, Respire, c'est un morceau qui est extrait d'un album de musique que moi, je trouve un petit peu expérimental, avec des sons un peu expérimentaux. Ce que j'aime bien dans toute cette période musicale-là, c'est que c'est un rapport à la musique et à la forme musicale qui est très différent des chansons qu'on écoute. On a souvent une facilité à repérer un refrain et un couplet dans une chanson. Dans la musique plus expérimentale, tant au niveau du son que de la forme, on manque un peu de repères et on est bien obligé de s'accrocher à ce qu'on entend, à savoir l'atmosphère qui est générée par ce type de morceau. Donc, c'est ça qui m'intéresse, c'est que ça développe un autre rapport avec l'auditeur ou l'auditrice.
Et alors, parlez-nous un peu de ce qu'on va entendre.
Là, vous allez avoir une forme, pour le coup, qui n'est pas si difficile à repérer. Il y a des moments avec une pulsation et un tempo musical un peu particulier. Puis d'un coup, il y a un arrêt, des mains qui clapent, entre guillemets, et on reprend cette boucle musicale. Et donc, ce qui est rigolo, c'est qu'il y a des respirations, qu'il y a des moments d'arrêt, de trous dans le son, des moments de rien. Et puis ça repart et on attend avec impatience ces moments de rien. On les attend, on se dit quand est-ce qu'ils arrivent, et à chaque fois le moment de rien, il dure une durée un petit peu différente, ce qui fait qu'à chaque fois on ne sait pas quand la musique va reprendre, et ça crée une sorte d'attention. Ouais.
Et c'est extrait d'un cycle dans lequel il y a Respire, Manche d'or. C'est un ensemble de compositions audiovisuelles finalement, et donc on associe image carrément avec son, et ça interroge sur la place du corps dans le monde. C'est un projet réalisé quand on le voit sur une vidéo avec un plasticien, c'est David Coste, et il y a deux grandes sections, et la première c'est la respiration elle-même, et puis le deuxième c'est une danse qui va amener à une transe finalement.
Ouais.
Les danseurs qui sont filmés d'après ce qu'on leur a donné comme contrainte, et la contrainte, la voici, c'est la seule indication qu'ils ont eue, enfin d'après ce que j'ai cru savoir. Je suis dans une boîte de nuit, je me mets à danser, persuadé qu'il s'agit d'une situation collective. Alors que la musique envahit l'espace, je me rends compte de mon extrême solitude. On fait quelque chose tout seul dans un collectif. C'est super, hein. On peut être en même temps au milieu d'une foule et seul, c'est ça ?
Oui, absolument. Et parfois, on se sent rarement aussi seul que quand on est au milieu d'une foule, justement.
Alors, il y a aussi un long crescendo. C'est encore un crescendo par accumulation.
Tout à fait, avec de plus en plus de sons associés. C'est des sons électroniques que vous allez entendre, issus notamment de synthétiseurs, des sons analogiques, donc c'est des sons séquencés.
11 instruments, vidéo et bande, hein, c'est ça à l'origine.
Et ce mélange des arts, moi, me parle beaucoup globalement de l'image, du corps et de la musique, et ça fait partie des projets qui me parlent.
C'est l'ensemble intercontemporain avec Jace Oglin. Ah, la baguette que nous écoutons maintenant, allez, respirons ensemble. Alors, auditrice, auditeur, tout à l'heure, je voyais Zoé chanter, et là, je viens de la voir danser, parce qu'elle a déjà interprété ce genre de choses, évidemment, ou associées, ou similaires.
Ah, disons que danser, que ce soit en boîte ou chez soi, seul ou accompagné, c'est un lien à la musique encore très différent, et moi je trouve que c'est très complémentaire avec le chant. Et quand on chante, moi je trouve qu'on danse un peu avec sa voix en fait. Donc c'est
formule à retenir. Zoé, voyons s'il vous plaît si nous avons une gagnante ou un gagnant au jeu du jour. Je me tourne vers Jean-Marc, il me semble bien que la réponse a été donnée. Quelqu'un a gagné un CD ou un DVD. La question c'était quel est le titre de la comédie musicale qui m'a permis de découvrir et d'admirer le talent de Zoé Fourré, qui est invitée ce jour. Et c'est elle-même qui donne la réponse. La réponse, parce que la réponse, c'était quoi, la comédie musicale?
C'était West Side Story.
Ah, et c'était la version l'histoire de Palio, il y a de la côte ouest. Qui a gagné? Comment se prénomme la gagnante ou le gagnant?
La gagnante se prénomme Sophie et elle habite à Mata. Bravo Sophie.
Donc même à Mata. Les auditeurs sont nombreux aujourd'hui à écouter la belle émission que nous propose Zoé Fourré. Merci Sophie et bravo. Merci à toutes celles et à tous ceux qui ont joué. Une seule personne peut gagner à chaque fois, mais d'autres jeux seront proposés dans les émissions à venir. Zoé, je pense que pour être l'artiste que vous êtes, il faut une bonne mémoire.
Tout à fait.
C'était le cas déjà quand vous alliez à l'école?
Oui, j'ai toujours eu une mémoire plutôt bonne, sans non plus avoir une mémoire démente.
Donc vous étiez capable de réciter vos leçons et vos récitations?
Oui.
Je vous demande ça parce que nous allons évoquer maintenant des récitations. Il y en a une, récitation que vous avez apprise à l'école que vous pourriez...
Oui, j'aimais beaucoup celle d'Hugo. Demain dès l'aube, à l'heure où blanchit la campagne, je partirai.
Et ça reste ça aussi?
Ah oui, ça reste.
Là, on parlait d'une récitation qui n'a rien à voir avec ça.
Rien du tout.
Parce que c'est une des récitations de Georges Apergis, qui c'est un compositeur d'origine grecque, qui s'est orienté d'abord vers la peinture, puis c'est en France qu'il a décidé de se consacrer à la musique. C'est un autodidacte, finalement. Il s'est différencié des compositeurs habituels ou traditionnels par une approche concrète, vivante et éloignée de la théorie habituelle des œuvres écrites. Et les 14 récitations, c'est certainement sa production la plus connue, qui ont été créées au Festival d'Avignon et qui ont connu des centaines de représentations. C'est un fait assez rare pour une œuvre contemporaine. C'est le son, le timbre vocal qui est à la fois point de départ et but ultime des récitations et de chacune d'elles. Il n'y a pas de dialogue, finalement, parce que la voix est seule.
Ouais.
Et puis, ce n'est pas vraiment le sens qui compte, c'est le son des mots, le son des associations. La récitation numéro 11, c'est celle que vous avez choisie. Pourquoi vous avez choisi celle-ci?
Pour deux raisons. Déjà, c'est parce que je l'interprète, celle-ci, parce qu'elle est pour voix et parce qu'elle déconstruit le langage. En fait, les mots sont remis dans tous les sens et on devine un sens et un sens théâtral aussi, mais il n'y a pas vraiment de sens. C'est quelqu'un qui propose plein de choses, qui perd un peu la raison. J'ai choisi ça parce que c'est un répertoire qui m'a été transmis par une professeure qui a eu beaucoup d'importance pour moi quand j'étais au conservatoire et qui s'est un peu spécialisée dans ce répertoire-là et qui a beaucoup d'ailleurs elle-même parlé, chanté les récitations.
L'importance des rencontres,
l'importance des liens. Évidemment, c'est ça qui crée notre carrière et nos envies musicales.
Là, on va entendre un principe d'accumulation en ajoutant des éléments avant les précédents, mais aussi après. C'est-à-dire que la partition, si on voulait la représenter, ça ferait comme une pyramide.
Ça fait une pyramide. Visuellement, c'est une pyramide.
On entend des phonèmes longs, des sons qui durent, et puis on repère des successions de mots, des bouts de phrases. Le tout est emprunté au langage de la vie quotidienne. Par exemple, « Va lui demander toi, je m'excuse », ça s'écrit comment ? On pourrait apparenter ça au Sprechgesang, c'est-à-dire le mi-chemin entre parler, chanter, la déclamation parlée, qui a été inventée par Engelbert Humperdinck dans un opéra qui s'appelle König Kinder, et ça a été repris après par Arnold Schoenberg dans Pierrot Lunaire.
Ouais.
Zoé, vous nous avez dit une récitation, mais maintenant on va écouter donc la récitation 11 de Georges Apergis.
Ouais.
Comme ça? Faut pas vous appeler comme ça, va lui demander, toi. C'en est un, faut pas vous appeler comme ça, va lui demander, toi. Et puis, je m'excuse, c'en est un, faut pas vous appeler comme ça, va lui demander, toi. Et puis, Graham, je veux que je m'excuse, c'en est un, faut pas vous appeler comme ça, va lui demander, toi. Et puis, Graham, par Graham. Je veux que je m'excuse, c'en est un, faut pas vous appeler comme ça, va lui demander, toi. Et puis, gramme par gramme, rien qu'à moi, nuit dernière, Je veux que... Je m'excuse, son être. Hein. Faut pas vous appeler comme ça. Va lui demander, toi. Et puis, Gram, par Gram, rien qu'à moi. Tu n'auras sœur de ton... Comment? Nuit dernière. Je veux que... Je m'excuse, son être. Hein. Faut pas vous appeler comme ça.
Alors, on est bien loin de la récitation, Zoé, que vous nous avez donnée, c'est certes, mais après la récite, c'est la récré. Non, après la récite, c'est le jingle.
De Donnez-nous vos notes, c'est avec Stéphane sur RDC.
Avec Stéphane, certes, mais surtout avec Zoé Fourré aujourd'hui, 93.4 et 92.5, c'est les deux fréquences sur lesquelles on peut écouter cette belle émission qu'elle nous propose. Zoé, vous êtes venue de Paris, vous êtes parisienne. Et comme une forme de cycle, on va retourner à Paris, on va aller faire un tour sous le ciel de Paris. Oh. Pourquoi ? Parce que c'est quelque chose... Bah dites-nous.
Sous le ciel de Paris, c'est une chanson que j'ai apprise à chanter en chœur quand j'avais 10 ans, donc là, ça fait très longtemps que je la connais. Je la fais chanter à mes propres élèves en conservatoire et en école primaire aujourd'hui. Et puis sous le ciel de Paris, on l'a chantée pendant les Jeux Olympiques, la cérémonie de tout à fait d'ouverture des Jeux Paralympiques, il me semble que c'était ça. Hein.
Non,
de fermeture des Jeux Classiques, c'était la fermeture.
Et vous étiez dans le chœur qui accompagnait la chanteuse.
Zao de Sagazan, et puis il y avait Léon Marchand qui marchait avec nous avec la flamme pour la transmettre jusqu'aux US où les Jeux se dérouleront dans quelques années. Et on a fait une version chorale, en fait, de Sous le ciel de Paris au Jardin des Tuileries à Paris, devant la grande vasque, la grande flamme des Tuileries. C'était très beau, un très beau moment.
Il y a quelques mois, et c'est un grand souvenir, évidemment.
Ouais, bien sûr.
Une auditrice qui parle de la chanson et qui dit... J'ai toujours adoré cette chanson et elle parle de la prestation que vous venez d'évoquer dans laquelle vous êtes. Ici, c'est celui qui a écrit et qui a fait l'arrangement à qui il faut dire bravo.
Oui, Victor Lemann, je travaille avec lui dans quelques mois au Grand Rex d'ailleurs à nouveau.
Lui aussi, c'est encore un invité potentiel. Vous voyez, les harmonies sont sublimes, vocales également, et puis quel cœur. Moi, j'ai envie de dire quel cœur avec et sans H. On écoute ? Allez, c'est maintenant.
Sous le ciel de Paris, les oiseaux du bon Dieu viennent du monde entier pour bavarder entre eux. Et le ciel de Paris a son secret pour lui. Depuis 20 siècles, il était près de notre île Saint-Louis. Sur Paris, c'est qu'il est malheureux.
Alors cette chanson est au nombre des classiques emblématiques des répertoires de plusieurs vedettes.
Piaf notamment.
Piaf évidemment, mais bon, Montand, Juliette Gréco, interprète majuscule. La liste des reprises est très très longue. Toutes les belles versions font du bien encore aujourd'hui, la preuve avec celle qu'on vient d'entendre. Mm-hmm. Je vais me permettre de citer deux reprises, une du duo Notes de Cœur dont la chanteuse était invitée il y a quelque temps dans cette émission, et une du duo SCS dont la chanteuse sera invitée bientôt. Je tire un immense coup de chapeau à toutes celles et à tous ceux qui ont contribué à cette merveille que nous venons d'entendre, évidemment. Sous le ciel de Paris, c'est au départ un air de musette, mais ça a bien évolué aussi. Et sous la forme musette, c'est très très joli. Bon, si on finissait, Zoé, cette émission de ce jour, l'heure tourne, le temps passe, avec un duo.
Super.
Sous le ciel de
Paris, Paris coule un fleuve joyeux. Elle est née aujourd'hui dans le cœur d'un garçon.
Eh bien oui, Zoé sera toujours Paris. Quant à moi, grâce à vous, Zoé, je vais pouvoir noter sur mon CV que j'ai fait une radio et que j'ai chanté avec Zoé Fourré.
Tout l'honneur est pour moi.
Merci Zoé, et merci et bravo du fond du cœur. Soyez sûr que dans quelques temps, vous aurez toute votre place pour revenir nous voir et parler à nouveau de votre chemin. Ça sera un plaisir de vous accueillir dans cette émission Donnez-nous vos notes, que j'ai le plaisir et l'honneur d'animer. Merci, vous nous avez magnifiquement...
Merci beaucoup pour l'invitation, merci.
Et puis, s'il vous plaît, continuez de nous offrir vos notes partout, ici, là ou hier, en France et au-delà. Et je veux ajouter l'expression de mes remerciements sincères pour avoir accepté de venir loin de chez vous ce matin du 17 avril. Merci à ceux qui nous ont écoutés, aux auditeurs, aux auditrices de plus en plus nombreux et qui envoient des messages de satisfaction. Bravo à Sophie. La prochaine émission sera le 22 mai, consacrée à Siem Zaoui, Je pense que c'est quelqu'un qui développe magnifiquement la Palène et le 27 à Rouillac. Au revoir Jean-Marc, merci de ton aide. Jean-Marc, tu peux envoyer le générique de fin parce que tu sais quoi ? Sur les ondes de RDC 93.4, 92.5, pour aujourd'hui, donnez-nous vos notes, c'est fini. Donnez-nous vos notes, c'est fini pour aujourd'hui. Merci beaucoup à l'invité d'avoir accepté de nous donner ses notes. Merci à l'invité d'être venu nous donner ses notes sur les ondes de RDC, Radio Diffusion Charentaise, 93.4, 92.5. C'était Donnez-nous vos notes, une note, des notes. Donnez-nous des notes, des notes, des bonnes notes. Donnez-nous des bonnes notes, rien que des bonnes notes. Donnez-nous vos notes. Passeurs et passeuses de rêves, donnez-nous vos notes. Passeuses et passeurs d'émotions, donnez-nous vos notes. Musiciens, musiciennes, magiciens des sons, magiciennes des sons, magiciennes des mots, magiciens des mots, donnez-nous vos notes. Chanteurs ou chanteuses, instrumentistes, en solo comme en groupe, donnez-nous vos notes. Donnez-nous vos notes, c'est fini. C'est fini pour aujourd'hui seulement. Chers auditeurs, chères auditrices, nous aurons bientôt le plaisir de recevoir un nouvel invité ou une nouvelle invitée. Et pourquoi pas un groupe d'invités. Alors, à vous toutes, à vous tous, je donne rendez-vous pour la prochaine émission de Donnez-nous vos notes sur les ondes de RDC, Radio Diffusion Charentaise, 93.4, 92.5. Qui voudra bien nous donner ses notes ? Merci à Jean-Marc pour la technique apportée, assurance de qualité tout au long de l'émission, et surtout, merci à vous, auditrices et auditeurs, de Donnez-nous vos notes. À bientôt. Pour moi, ce sera encore une très grande joie. Alors oui, à bientôt.